Intertexte.
Maya Ernest.
Un podcast animé par Arthur Segar.
Maya, merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour cet épisode. Je suis trop content de le faire avec toi. Et donc, on va parler, comme dans chaque épisode, de plusieurs textes. On va parler du dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, du texte qui pour toi parle le mieux d'amour, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais aimé avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre et d'une carte blanche à la fin. Et avant ça, le premier texte dont on parle, comme à chaque fois, bah, tu as devant toi des petites cartes. Et au dos de ces petites cartes, il y a des textes, il y a des petites citations. Donc si tu as envie d'en piocher une et de voir si ça te fait réagir, si ça t'inspire.
De faire un tarot.
C'est exactement ça.
Alors, donc, les chats offrent aux écrivains quelque chose que les êtres humains ne savent pas offrir. Une compagnie qui n'est ni revendicative, ni dérangeante, et qui est aussi apaisante et changeante qu'une mer calme. Patricia Highsmith, c'est ça ? De l'art de vivre avec les chats. Ça me fait rire parce que du coup, tu as été accueillie ici avec un très gros chat, qui est mon chat, qui s'appelle Bindou.
Bindou.
Ouais, Bindou, qui peut être un nom qui peut être perçu bizarrement, mais c'est parce que j'ai écouté un podcast justement avec un podcast transfert avec un garçon qui racontait son histoire d'amour avec une fille qui s'appelait Bindou, et je trouvais que ça, je sais pas pourquoi ce nom est devenu une évidence. Et je trouve ça rigolo parce que c'est vrai que je vis avec un chat et que je me dis tous les matins que c'est exactement ça, c'est apaisant et pas revendicatif un chat. Ça demande pas grand chose. Donc après je suis pas une écrivaine, moi j'écris pas, donc j'ai pas ce rapport-là à la vie, en tout cas j'écris pas, donc c'est quand même différent, mais c'est un repos.
Mais t'es une artiste quand même. Donc est-ce que Bindou il t'aide dans, elle t'aide dans ta, dans ton activité artistique, elle t'inspire ou elle t'offre du coup cette compagnie qui est pas trop envahissante?
Ouais, je pense que elle l'aide. Je sais pas si c'est forcément dans la créativité, mais en tout cas je trouve que c'est indéniablement une présence incroyable, parce qu'en fait quand tu rentres chez toi et que t'as un chat, tu rentres pas chez toi, tu rentres chez ton chat. Il a une présence qui est vraiment beaucoup moindre qu'un chien, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir te t'assaillir de trucs, mais il est quand même là, donc on ne se sent jamais vraiment seul. Et je pense que c'est un endroit parfait pour moi, parce que j'aime bien être seule, mais en même temps, je n'aime pas rentrer dans un appartement vide. Donc, le fait qu'il y ait mon chat... Enfin, c'est un sacerdoce, ce chat, ça fait 6 ans que je me le trimballe. Absolument tous mes amis l'ont gardé. C'est une espèce de mascotte. Mais il me fait tenir un peu, j'ai l'impression que pour lui, un peu comme un enfant et comme plein de Parisiens qui projettent tout sur leurs animaux parce qu'ils ont des enfants à 40 ans, j'ai l'impression que ce chat, je lui dois des choses. Je lui dois d'être un peu sérieuse, de ramener des croquettes.
Donc ça t'oblige à une discipline.
Exactement.
Quand même, donc c'est pas mal pour aussi la création, je suppose.
Complètement, ça me permet de me lever tôt en réalité, parce que je me fais harceler très tôt le matin et j'arrive pas à me rendormir. Et puis, quand je le regarde dans les yeux, je sais que je lui dois des croquettes, de la pâtée. Et du coup, j'ai l'impression d'être une adulte pour ce chat.
Ouais, parce que tu dois t'occuper de lui, un peu comme ton enfant.
Ouais, complètement. Et bon, enfin, tous mes amis savent très bien que c'est Maya et Bindou. Voilà. Et en plus, ce chat est très gros parce que je l'ai voulu. C'est-à-dire que je pense qu'inconsciemment... Il mange tous les trucs que moi, je mange pas.
Okay.
J'adore, je trouve ça trop bien qu'il soit très, très moelleux et très gros. Voilà ce que je peux dire sur le chat. Mais en effet, oui, c'est une figure de poète aussi, pas mal, qui ont beaucoup écrit sur les chats. Baudelaire, non, il aimait les chats. Donc oui, c'est... Puis en fait, on ne te lasse pas de ce que fait un chat. C'est-à-dire qu'il fait quand même rien. Et la façon, tout ce qu'il fait est formidable. Genre, la façon de regarder, de dormir, c'est magnifique. C'est pas ça, je pense que c'est une créature parfaite.
Ok, ouais.
Le chat. Donc, oui, cette carte tirée comme un tarot a beaucoup de sens.
Ça marche à tous les coups. Et donc, ton chat t'inspire du coup ?
Mon chat m'inspire de l'amour, il m'inspire. Après, j'ai rêve qu'il joue dans un film. Ouais. J'aimerais bien pouvoir qu'un ami qui fait d'un film puisse mettre mon chat dedans. J'ai déjà rêvé de le mettre sur une scène de théâtre aussi. Okay. Mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'un animal sur scène, c'est hyper dangereux parce que ça joue tellement mieux qu'un humain.
Ah oui, ça joue pas, justement.
Exactement, en fait, c'est tellement vrai que n'importe quel humain paraît faux à côté du naturel d'un animal. J'ai vu une fois une pièce avec un chien. C'était une pièce de Christiane Loupa. Et en effet, c'est hyper troublant de voir un animal sur scène, parce que c'est vraiment une espèce de réel qui vient casser complètement en fait cette espèce de décorum de théâtre auquel on a toujours un peu de mal à croire. Et ouais, je trouve que l'animal c'est assez perturbant sur scène.
Ouais. Ouais, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de chiens dans les films. Enfin là, dans Anatomie d'une chute, t'avais un chien extraordinaire,
chien.
Voilà, qui a gagné d'ailleurs la Palme d'Or.
C'est vrai. Voilà. Ah, il y a une Palme d'Or.
Ouais, voilà, spécifiquement pour les chiens. Et donc, tu vois, ça existe. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de chiens.
Et j'avoue que ce chien dans Anatomie d'une chute, il est incroyable. Et il est hyper important. Et on le voit qu'il est hyper important. Et je suis d'accord. Ouais, ça fait partie des films où l'animal a un vrai sens. Mais aussi souvent, j'ai vu que dans les affaires criminelles, souvent les assassins ou les tueurs en série, donc les gens qui paraissent monstrueux, ils déchargent souvent toutes leurs émotions quand ils parlent de leurs animaux. Okay. C'est-à-dire que souvent, par exemple, je crois que c'est Jean-Claude Roman, c'est le médecin qui a tué toute sa famille, dont il y a Carrère qui a écrit L'Adversaire sur lui. Il dit dans ce livre d'ailleurs que on lui parle de ses enfants tués par balle, de sa mère, de son père qu'il a tué, de sa femme. Il n'y a aucune émotion. Tout le monde dit que c'est vraiment troublant parce qu'il est complètement en plastique. Et par contre, au moment où on lui dit qu'on parle de son chien qu'il a tué également, et là, toutes les larmes sortent et il devient comme un enfant. Et je trouve que c'est dans l'animal de compagnie souvent qu'on met beaucoup d'émotions, en fait. C'est là où, même les hommes, bizarrement, qui ont plus de mal à exprimer leurs sentiments et tout ça, le font beaucoup avec leurs chiens et leurs animaux, je trouve. Donc, c'est un endroit de sensibilité où on va pouvoir pleurer parce que le chien est mort, et par contre, on va pas forcément pleurer parce que la grand-mère est morte. Donc, c'est vrai que c'est une figure. En fait, c'est ce qui ça apprend beaucoup sur le maître, je pense. Ouais. C'est pour ça que quand je dis que moi j'ai un chat très très gros, ça apprend aussi. Enfin, il y a déjà des gens qui m'ont fait des réflexions en me disant, toi t'es toute fine, et puis ton chat il est super gros. Donc, il y a un transfert quelque part. Ouais. Ma mère, par exemple, avait un chat. Elle mangeait. Enfin, elle était aussi. Ma mère est très difficile avec la nourriture, et du coup, son chat était complètement pareil. Elle reproduisait les mêmes rapports. Donc, je trouve ça rigolo, ouais. Ça apprend souvent ça, quoi.
Ouais, bon, c'est sûr. Et c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de chiens dans les films, mais un peu moins de chats, j'ai l'impression. Enfin, si, y en a aussi, mais je sais pas, c'est quoi le dernier chat marquant que j'ai vu au cinéma, mais il y a un compte Twitter qui s'appelle la Ronron Tech où il répertorie les chats du cinéma, donc ça existe, mais c'est vrai que on en parle, ils sont moins médiatisés. Il y a pas de palme de cats, palme aussi parce que
c'est dresser un chat qu'un chien. Et c'est hyper difficile, je pense. Dans même les dresseurs d'animaux au cinéma, ils ont souvent plein de sortes, ils ont des cochons, des rats, des chiens, mais je pense que dresser un chat, c'est pas facile. C'est un peu indressable, un chat.
Ils sont plus anarchiques, anarchistes.
Ouais. C'est des anarchistes, pas communistes, mais anarchistes.
Alors, quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau?
Je séchais un peu sur la question, parce que je me rendais compte que j'ai pas trop lu cette année, et que pour me remettre à la lecture, j'ai beaucoup lu des trucs pas ouf pour me redonner, enfin pas ouf, mais qui sont un peu faciles à lire, pour me redonner une concentration à la lecture, mais du coup c'était pas des grands textes. Et le dernier texte que je dirais que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est un poème de Pasolini qui s'appelle « Supplique à ma mère ». C'est un poème que j'ai découvert en montant du coup ma dernière pièce de théâtre, qui s'appelle « Tout sera différent ». Et qui parle du rapport beaucoup à la mer et à l'Algérie. Mais principalement, en fait, le noyau parlait du rapport à la mer. Donc, avec l'autrice, Agathe Charnay, on parlait de nos deux mères mélangées en un personnage. Donc, qui avait à la fois la problématique d'être une immigrée, une immigrée d'Algérie, et en même temps une femme malade de la maladie d'Alzheimer, mais de façon précoce. Donc on avait décidé au final de parler de nos mères. C'était assez douloureux au final comme projet, parce que je crois qu'on s'attaquait à des sujets dont on n'imaginait pas la portée, pour nous. Mais j'avais trouvé donc je m'intéressais beaucoup aux figures d'auteurs ou d'autrices qui sont très fascinées par ce rapport-là avec la mer. Donc je sais qu'il y a dans La Promesse de l'Aube, il y a mon côté toulousain qui revient. Dans La Promesse de l'Aube, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui dit que l'amour maternel vous fait à l'aube de votre vie une promesse qu'elle ne tient jamais. Et je pense que ça, c'est une phrase qui était un peu moteur pour moi dans la vie et pour ce projet. Et ce poème de Pasolini qui est super beau, et en fait c'est un peu des figures de mecs qui sont restés bloqués sur leur mère, qui c'est dans des rapports un peu incestueux, enfin avec un climat incestuel en tout cas assez malsain, et en même temps c'est un amour fou. Et je pense que c'est dans ces auteurs-là que j'ai vu le plus ce rapport-là. Des femmes qui écrivent ça sur leur mère, je l'ai moins vu en tout cas, moi je l'ai moins lu. Et donc voilà, donc je peux lire ce poème si vous voulez. Donc ça s'appelle Supplica a mia madre, donc supplique à ma mère. Je vais lire en français évidemment car je ne suis pas italienne. Ça a été écrit en 64. Donc il est difficile de dire dans le langage d'un fils à sa mère ce qui, en mon fort intérieur, ne me ressemble guère. Tu es la seule au monde à savoir ce qu'il en a toujours été de mon cœur avant tout autre amour. C'est pourquoi je dois te dire ce qu'il est horrible de connaître. C'est dans ta grâce que je vois mon angoisse naître. Tu es irremplaçable. C'est pourquoi est condamnée à la solitude la vie que tu m'as donnée. Et je ne veux pas être seule. J'ai une faim démesurée d'amour, d'amour de corps sans âme demeurée. Car l'âme est en toi, c'est toi. Tu es simplement ma mère et ton amour est mon asservissement. J'ai passé, asservi à cette sensation toute mon enfance, sensation élevée, irrémédiable, d'un engagement immense. C'était le seul moyen de ressentir la vie. Sa nuance absolue, sa forme absolue, voilà, elle est finie. Nous survivons, et c'est la confusion, d'une vie renaît hors de la raison. Je te supplie de ne pas vouloir mourir, je suis ici seule avec toi en un avril à venir. Voilà. Donc je trouve qu'il y a notamment une phrase que j'aime plus que tout, c'est « Tu es simplement ma mère et ton amour est mon asservissement ». En tout cas, moi, c'est une phrase qui me touche énormément, puisque j'ai eu cette impression pendant longtemps que j'ai, par la suite, plus ou moins réglée chez mon psy, d'un amour tellement fort qui produit ensuite une forte déception, en fait, par le manque d'absolu des amours qu'on vit dans notre vie. Et puis d'un asservissement, en fait, quelque chose qui t'oblige. Que tu dois rendre une forme de culpabilité aussi. Je sais que tout le monde ne vit pas ça dans le rapport à la mère, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette espèce d'angoisse aussi, que en fait dans cet amour-là naît l'angoisse, et c'est à la fois tout, c'est à la fois énorme. Je me rends compte d'avoir été aimée par ses parents, parce que c'est pas le cas de tout le monde, enfin d'avoir reçu de l'amour en tout cas. Mais par contre, c'est aussi un truc que j'ai dû, moi, régler par cette pièce. En fait, bizarrement, cette pièce, elle a été vraiment un catalyseur de tout un tas de trucs qui remontaient. Et ça me touche beaucoup. Les rapports des gens avec leur mère me touchent énormément. Et surtout, je me rends compte qu'en réalité, tout le monde autour de moi a souvent un rapport, va me dire des phrases comme « ma mère est folle ». Puisque la mère, de fait, devient un peu folle par son... Enfin, les mères de notre génération, leur génération, quoi. Par le fait que souvent, elles travaillent pas, elles n'ont pas pu vivre de vie complètement épanouissante, en tout cas moins que nous, je pense, dans notre cercle. Donc, je remarque en tout cas que beaucoup de gens autour de moi vont dire « Ouais, ma mère, il y a une folie en elle ». Et dans tout milieu, j'ai l'impression que ça soit dans des milieux très bourgeois, mais aussi dans des milieux où il y a beaucoup moins d'argent, en province, à Paris. Enfin, c'est un truc qui se rejoint beaucoup. Le rapport qu'on a avec ça change, je pense, suivant quel milieu, dans quel milieu on évolue, mais c'est assez universel. Et les figures de mère, quand même, dans Anatomie d'une chute, par exemple, c'est hyper intéressant. Et puis. La face de la mère chez une femme est très, très forte, enfin, je trouve très intéressante, très importante, et elle continue d'évoluer dans d'autres directions, je pense, qu'on découvre un peu des nouvelles façons d'être mère, mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est un amour unique, c'est un amour fou, ouais, en fait, moi, je l'ai vécu comme ça, et dans cette pièce-là, en tout cas, c'est aussi ce qu'on voulait montrer, ouais, en tout cas, ce que j'avais envie de dire, et ce poème m'a énormément touchée. Après, voilà, ça reste un fils à sa mère et c'est un peu, voilà, ça reste encore différent parce que je sais pas, je connais pas la vie de Pasolini exactement, mais ça sent un peu le duo mère-fils très très intense où on sait pas trop où ils perdent, par exemple.
Ouais, ouais.
Voilà, par exemple, moi c'est pas mon cas, donc c'est pas forcément. Et puis il y a aussi le fait que eux, il y a, c'est comment dire, un complexe de.
D'Œdipe. Non, de l'inverse.
D'Électre. Non, de.
Attends, je sais pas.
Je sais pas, ouais, un autre, bon, c'est l'un complexe, l'autre complexe. Donc, en rapport mère-fille, c'est encore différent.
Ouais.
Là, il y a un côté amoureux même. Hein, c'est, donc, quand il parle de sa mère, on dirait une histoire d'amour, quoi. Et je pense que c'est des trucs ensuite qui sont importants à digérer dans sa vie.
Ouais.
Voilà.
Mais ouais, en parlant de vos mères avec Agathe Charnay, dont tu as mis en scène le texte, tu as senti qu'il y avait peut-être un rapport différent selon le genre par rapport, par exemple, à Pasolini ou à Romain Gary, où il y a clairement un truc de, à la fois d'amour absolu du fils pour la mère et peut-être d'investissement quelque part de la mère envers son fils. Enfin, il y a un peu ça chez Gary où la mère attend tellement de son fils, justement, tout ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Elle attend qu'il devienne l'homme le plus important du monde, un artiste incroyable, etc.
Ouais. C'est des mères quand même souvent aussi qui consignent tous les articles qui sont faits sur leur fils. C'est des mères qui vivent complètement par la réussite de leur fils, en effet. Donc il y a un aspect social où elles n'ont pas pu se réaliser, comme tu dis, et où elles sont complètement... et en plus, oui, comme je disais, elles évoluent pas dans les mêmes milieux. Souvent, c'est pas forcément des femmes qui sont, je sais pas, dans le cas de Pasolini, encore une fois, mais on voit dans Romain Gary que, ouais, elle vit cette vie de star, en lisant les articles, en voyant ses réussites et tout. Nous, dans notre cas, avec Agathe, par rapport à nos mères, même si en plus, le rapport était très différent, c'était pas complètement de cet ordre-là. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est un rapport que je connais pas du coup, mais fils-mère qui est très spécial, ouais. Comme j'imagine, peut-être certaines filles ont un rapport avec leur père aussi.
Ça, c'est pour une autre pièce.
Voilà, ça, c'est pour une autre pièce. Ouais, je pense pas, non, pas pour moi. Ça va, j'ai suffisamment fait ma psychanalyse au théâtre, donc ça, je crois que j'ai plus envie de parler de moi.
Okay.
Ouais, ça, c'est vrai. Je crois qu'au début. On a beaucoup dans ma compagnie qui aujourd'hui qu'on a arrêté tout ça, mais qu'on a tenu pendant plusieurs années. On a beaucoup parlé de nous parce qu'on avait une envie forte d'exprimer notre rapport au désir. On a monté une pièce autour des fragments d'un discours amoureux. Mais en parlant de nous, finalement, on a parlé aussi de notre rapport à la collapsologie en tant que jeune de 25 ans. Après, on a eu voulu faire cette pièce hyper lourde, en fait, sur nos mères, le rapport à l'Algérie, qu'en fait, c'était un espèce de rideau que j'ouvrais et je n'avais pas conscience, en fait, de tout ce que ça impliquait. Je crois qu'après avoir fait tout ça, j'ai plus du tout envie de monter des pièces sur moi. Voilà. Je suis sortie de cette envie d'autofiction ou de me mettre dans les choses. J'ai plus envie, ouais. Je crois que ça arrivait à son terme.
Mais faire ça, ça a pu quand même t'aider à comprendre des choses de toi ou à progresser sur certaines choses ou finalement...
Bien sûr, en fait, cette pièce, elle a eu une histoire en plus qui est un peu triste. C'est-à-dire qu'on a monté cette pièce pendant plusieurs années. Je pense qu'on a mis 3 ans à la monter entre le moment où on a commencé à en discuter et le moment où elle a été jouée. Et elle s'est prise énormément de vents contraires, notamment le Covid, au moment où, par exemple, on devait partir tous ensemble en Algérie pour enfin que moi je puisse découvrir ce pays dont je viens, où finalement ça a été annulé. Voilà, il y a eu le Covid qui a fait que les dates ont été annulées. Donc en fait, c'est un spectacle qu'on a très peu joué, qu'on a beaucoup répété, qu'on a beaucoup réfléchi. Et du coup, quand on répète une pièce qui est aussi lourde, c'est lourd, en fait. Enfin, c'est pas... À la base, on avait l'habitude de faire des comédies. Et ce qui est quand même, moi, mon goût premier. C'est-à-dire que j'aime énormément répéter en riant, en faisant des blagues. Et c'est ce que j'aime le plus. Et là, c'était un peu notre pièce sérieuse. Et on a mélangé aussi nos deux vies, alors qu'en fait, elles n'avaient pas forcément à voir. L'envie était vraiment trop belle. Et je pense qu'elle partait d'une profonde amitié. Mais le cheminement a été difficile parce que, en fait, c'était des histoires violentes, d'une part pour elle et d'autre part pour moi. Et j'ai, par exemple, pris la décision d'aller voir un psy pour la pièce, ce qui, en fait, est une façon détournée d'aller se soigner. Et en fait, ça, pour le coup, ça a été quand même au moins. On l'a quasiment pas joué, donc en fait, c'est dur de répéter aussi longtemps pour. Enfin, moi, je l'appelais... c'était un désastre pour moi. Je le vivais vraiment. C'est vraiment terrible de travailler quelque chose qui ensuite... C'est tellement éphémère. Le théâtre, c'est pas comme un film.
Ouais.
C'est, si ça joue pas, ça n'existe pas quelque part. Ça existe que dans le souvenir des gens qui l'ont répété. Mais tout ça est oublié, quoi. Ça tient à un dossier, à pas grand-chose. Et c'est une pièce qui nous a quand même coûté cher. Mais au moins, je vais mieux après, quoi. Voilà.
C'est trop bien.
Ça m'a apporté une plus grande connaissance de mon histoire et de cette identité algérienne. Puisqu'en fait, j'en connaissais absolument rien. J'y allais un peu avec mes gros sabots, en plus d'ailleurs, voilà, dans mon idée du traitement de ça. Donc le livre d'Alice Zeniter, ouais, L'art de perdre, m'a beaucoup marqué. Il a quand même été vraiment un point de départ à l'envie de raconter ça, parce que je me suis reconnue bizarrement, alors que avant j'étais dans un déni total de cette histoire. Donc ça m'a appris, ouais, ça m'a informée beaucoup. Ça m'a recollé en fait des parties d'identité, je pense, ouais. Et ça a permis aussi, je pense que parfois certains gestes créatifs nous réconcilient avec nous-mêmes et parfois avec des membres de notre famille. Mmh, ouais. Et j'admire beaucoup moi les gens qui font des par exemple des docu-fictions ou des choses comme ça sur la famille en fait. Enfin, je trouve que cette volonté de Enfin, souvent, les artistes, en fait, ils ont cette volonté de ressouder les choses, de les raconter, de les faire revivre et de mettre de l'ordre, en fait, dans les choses. Ouais. C'est ce qu'on dit, par exemple, sur l'exil. On dit que souvent, c'est de la troisième génération, en tout cas, des exilés ou des gens qui ont fait la guerre. Hein. Ça peut marcher pour la Seconde Guerre mondiale en France ou chez les Allemands, par exemple. Où ce sont eux qui commencent à parler, et notamment particulièrement les femmes. Mmh. Par exemple, moi, je remarque autour de moi, dans la génération d'artistes, c'est-à-dire des documentaristes, des autrices, des chanteuses, des thésardes. En fait,
c'est sympa de compter les thésardes dans le truc. Ouais.
Et ben, ce sont beaucoup les femmes, en tout cas sur la question de l'identité algérienne, sont beaucoup des femmes qui l'expriment avec des mots. Ouais. Voilà. Ça veut pas. Il y a aussi plein d'hommes algériens, je pense, qui sont dans ma génération à moi, mais ils vont peut-être l'exprimer différemment en faisant de la musique. Mmh. Ça va être moins en disant très clairement les choses et en voulant avoir un rap, en interviewant la grand-mère. En fait, ouais. Toutes ces choses-là, ouais, le fait de revenir voir en disant alors raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, c'est vraiment la troisième génération qui se charge de ça à chaque fois. Ouais. Donc finalement, je me suis chargée de ça aussi à ma manière. Comme je dis toujours, ça m'a. Moi, par exemple, j'ai pas subi de racisme. Enfin, je peux pas dire que je suis identifiée comme. Une personne algérienne, enfin je suis pas algérienne, je n'ai jamais été en Algérie, je ne parle pas arabe, enfin donc forcément c'est, mais comme elle le dit dans L'art de perdre, enfin c'est quand même extrêmement là quoi, je veux dire, et puis c'est une identité qui se revendique, on le voit, on le sent, moi dans ma famille, chez ma grand-mère, c'est quelque chose qui se revendique et dont on est fier. Donc ça n'était pas arrivé jusqu'à moi, et aujourd'hui j'arrive à faire un entre-deux, parce que moi j'ai du mal quand même au fond, après toutes ces discussions, par exemple, notamment dans les milieux décoloniaux, à être fière de ça. C'est-à-dire que dans mon intimité, je ne dirai jamais aux gens « je suis fière d'être algérienne » parce que je ne vois pas le sens que ça a, tout comme toute autre identité. Ensuite, je pense que quand on s'exprime publiquement, il faut le dire. En fait, ça fait partie du processus de se réapproprier une identité et d'en être fière et de le dire au monde. Mais très personnellement, je ne peux pas dire que dans mon lit le matin, je me réveille en me disant « je suis tellement fière d'être algérienne ». Voilà, en tout cas, c'est pas mon... je ne vais pas me voler... enfin, prendre une identité qui n'est pas la mienne. Et la pièce, c'est ce qu'elle voulait dire à la fin aussi, c'est que faire une quête initiatique sur ses origines, ce qu'en fait tout le monde peut faire, hein, qu'on soit d'un autre pays, mais ça peut être aussi juste de faire une enquête sur sa famille, de savoir d'où on vient, pourquoi est-ce que des choses sont transmises entre les générations. Il y a toujours un... enfin, je sais plus ce que je voulais dire.
Il y a aussi ce qui s'est pas transmis, ouais. Fin...
Oui, il y a ce qui s'est pas transmis, ça ressort dans tous les cas. Et c'est une enquête qui est passionnante, mais à la fin, je pense pas qu'on en... Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on... je pense pas qu'à la fin, on en retire avec une identité, une panoplie, en disant « Ah, ça y est, bah, j'ai compris, ouais, bien sûr, je suis cette personne-là, ouais. Parce qu'en fait, eux l'étaient. Ouais. » Je trouve que c'est toujours bien. Contrairement, par exemple, aux pièces, je trouve, de Wajdi Mouawad, qui sont une grande référence, en fait, quand même, pour plein de gens au théâtre aujourd'hui, et dans cette idée de quête identitaire. Aujourd'hui, quelqu'un que j'apprécie moins, mais qui a quand même fait des grandes pièces, qui ont été, moi, mes premières histoires d'amour de théâtre, hein, au lycée, quoi. À la fin, lui, il cherche des réponses. Et en tout cas, j'ai l'impression souvent qu'il y en a, alors que moi, ce que je voulais faire justement avec cette pièce, c'est de montrer qu'il n'y a pas de réponse et que l'identité, elle est tellement mouvante et elle est très particulière et il faut la garder particulière. Parce que moi, ça m'embêterait, moi, en tout cas, de m'arrêter à quelque chose en disant « voilà ce que je suis », parce que c'est complexe et qu'il faut justement tout le temps toujours en parler pour qu'elle continue à évoluer et qu'il y en ait plein qui existent. Et pas de me dire « oui, donc je fais partie de ces personnes-là et je vais suivre... » cette façon de penser, cette façon de m'exprimer, non, je trouve qu'il faut rester libre avec ça.
Bah, surtout quand on est une artiste, ouais.
Surtout quand on est artiste, c'est vrai. Il faut pas l'oublier, ça, parce que et tout le monde est un peu, doit avoir cette partie un peu artiste en lui et là en fait, parce que qui n'est pas et je trouve qui apaise aussi le militantisme. puisque c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mal fréquenté, toute forme de militantisme, qu'il soit plutôt d'extrême gauche ou plutôt féministe ou décoloniale, voilà, c'est des militantismes qui sont passionnants, qui sont hyper enrichissants, mais qui à la fin doivent être interprétés librement.
Ouais.
Voilà. Mmh. Et oui, en tant qu'artiste en fait, et tout le monde devrait avoir cette, je pense, cette liberté là. On devrait la donner aux gens en fait, de pouvoir être trouble.
Tout à fait.
Ouais. Voilà.
Et du coup là, tes prochains projets, c'est des trucs qui te touchent de moins près, quoi.
Bah, je monte une nouvelle pièce qui part en effet de travaux qu'on a fait avec un ami, un auteur qui s'appelle Vincent Callas, qui part de travaux qu'on fait avec des élèves chaque année à une école de théâtre qui s'appelle Vitry. Enfin, qui s'appelle Vitry, qui est à Vitry, qui s'appelle pas Vitry, mais qu'on appelle Vitry, nous. Ouais. Et c'est une pièce qui parle du Parti Socialiste. En gros, on est parti de ça. Je pense qu'ensuite, on va essayer de ne pas nommer les choses.
Ouais.
Mais en gros, quand je dis que ça ne part pas de nous, au final, si, ça part un peu de nous, parce que moi, j'ai été au Parti Socialiste pendant de nombreuses années, au lycée jusqu'en 2012. Donc, j'ai fait la campagne pour Hollande.
Après, il y a eu des problèmes.
Voilà, après, il y a eu Hollande, en fait. Ouais. Et puis, j'ai grandi dans une famille du côté de mon père où ils sont très socialistes. Mmh. Mes parents étaient socialistes. J'ai baigné dans cette espèce d'ambiance sauce d'em, comme on dit, où j'avais l'impression, moi j'ai grandi en me disant, mais c'est ça, c'est les gentils, c'est le bon parti, donc quelque chose d'assez religieux, d'assez chrétien en fait. Et j'ai toujours été assez engagée politiquement, en tout cas j'ai toujours eu envie de donner mon temps dans des réunions, d'aller donner des tracts, et j'ai toujours eu un goût de ça, parce que mes parents aimaient beaucoup de parler de politique, et j'entendais tout le temps Jospin, Pasqua, enfin c'est des mots avec lesquels j'ai grandi, et qui ressemblaient un peu à des gros Pères Noël dans mon enfance. Et ensuite, j'ai été forcément très déçue et il y a eu une grande cassure. Bien qu'autour de moi, je continue à y avoir... Bon, il y en a de moins en moins, mais il y a encore toujours des socialistes. Hein. Il y en a encore. Donc, c'est une pièce qui... C'est un huis clos, c'est un dîner qui adopte les mêmes codes de la comédie de boulevard, en fait.
Okay.
Parce que j'ai aussi un peu envie de redorer le blason de la comédie. Notamment la comédie de boulevard, qui est en fait une espèce de huilage qui est quand même assez parfait, et qu'on critique beaucoup, qu'on méprise beaucoup dans le théâtre contemporain, le théâtre émergent, donc que moi je fréquente en fait, que je vais voir au théâtre ou que je fais. Finalement, il n'y a pas beaucoup de choses si drôles que ça. Quand c'est drôle, c'est hyper méta-théâtre, c'est-à-dire que les gens jouent l'idée qu'en fait ils jouent, et donc c'est drôle, mais c'est assez pointu. En fait, de la grosse comédie, on n'a pas tant que ça. On le laisse au théâtre privé, on le méprise, en se disant, c'est du théâtre de provinciaux, donc ça ne nous intéresse pas. Alors que au cinéma, on a plus de goût pour la comédie quand même. Bon, il y a de la comédie de merde, mais il y a aussi de grands cinéastes qui sont de grands réalisateurs de comédie. Et je trouve que ça manque. En fait, ça manque, et faire rire, c'est pas facile. Je veux dire, c'est pas une évidence du tout, et c'est une science, en fait, le rire. C'est comme l'épouvante, par exemple. Hitchcock, quand il présentait ses premières de ses films, il se mettait derrière l'écran pour voir les gens, comment ils réagissaient, à quel moment ils avaient peur, ils regardaient vraiment leur visage comme une science. Et le rire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on répète, mais ensuite, quand on joue, on réajuste naturellement les acteurs, parce que quand ils sont bons, et c'est un métier quand même, justement, et ils ont ce talent-là de savoir mettre la bonne pause, d'entendre les gens, de sentir à quel moment le rythme il faut. C'est vraiment une science, l'humour. C'est une question de timing, c'est une question de silence, c'est une question d'intonation, de beaucoup de choses, de corps. Les acteurs comiques, c'est... Franchement, c'est des génies. Mais en tout cas, ce huis clos-là, donc, c'est un dîner de sauce d'em. Donc, on va, je pense, pas nommer le Parti Socialiste, ouais, mais qui se rejoignent le soir des élections.
Okay.
Donc on part quand même de l'idée de ce fameux soir où il y a quand même eu 1,7%. Enfin, et moi j'ai envie d'en parler parce que pour moi c'est la fin de
la dernière fois, du coup. Ouais.
Exactement, Anne Hidalgo qui a fait quand même un score terrible pour le parti qui était le parti de gauche, le parti d'opposition, celui dans lequel on a plus ou moins pas mal engrandi en fait dans notre milieu d'artistes de gauche, quoi, voilà. Et en fait pour moi ça a été comme la fin de l'enfance.
Okay.
C'est-à-dire que ça parle un peu de moi, mais bon, je suis pas dans cette pièce, mais ça parle d'une désillusion.
Okay,
c'est-à-dire ce qu'on m'a raconté quand j'étais petite, c'était pas vrai. Voilà, ouais, c'était un mensonge.
Les Pères Noël n'existaient pas.
Exactement, ouais. Le Père Noël n'existe pas, Jospin est parti, il ouais. ne reviendra pas, Hollande nous a servi Emmanuel Macron, enfin, le Parti Socialiste a quand même été le fossoyeur de la République. Donc, il y a une déception immense dans ce qu'on, m'ont dit mes grands-parents, qui sont des gros boomers, évidemment, mais des boomers très intello, très de gauche, que j'admirais énormément enfant et qui, en fait, tout d'un coup, sont effondrés. Bon, mes parents, c'est différent parce qu'ils ont su évoluer politiquement, mais malgré tout, pour moi, ouais, c'est la fin des illusions et c'est savoir comment on peut en avoir d'autres. Et aussi, c'est une façon de taper sur les gens qui viennent voir ces pièces. Parce que c'est facile de faire des pièces sur les migrants, parce que tout le monde est d'accord, il ressort à la fin en disant « oui, c'est terrible, Lampedusa, quelle horreur ». Mais par contre, je trouve ça toujours agréable quand, en fait, le mec qui lit Télérama et qui vient très confortablement à chaque fois au théâtre, finalement, on se lui dit un peu que c'est un trou de balle. Voilà. Je trouve que c'est mérité et que ça va. Tu vois, ils vont pas s'effondrer. Et que c'est à eux qu'il faut parler plutôt qu'au théâtre. On a quand même malheureusement tendance à toujours chercher un nouveau public. Il y a un livre de Olivier Neveu qui s'appelle « Contre le théâtre politique » qui est hyper intéressant et qui m'a beaucoup marqué, je pense, sur ma façon de faire du théâtre. Enfin... Et on en a beaucoup parlé dans le milieu, parce qu'on a toujours la volonté de se dire il faut faire venir les pauvres au théâtre, il faut faire venir les gens des milieux ruraux, les gens de banlieue. Et en fait, c'est d'une condescendance folle, c'est-à-dire que ce serait par notre art certifié qu'on amènerait les gens à un éveil républicain et intérieur magnifique qui les rendrait, qui désensauvagerait en fait finalement tous ces gens. Et ce qui est insupportable. Et en fait, ces gens n'ont pas envie d'aller au théâtre. En fait. Et pourquoi ? Mais parce qu'on en est responsable. Enfin, il y a un moment, c'est ce qu'on fait, c'est la façon dont on communique autour des choses, dont on choisit des graphistes, dont on choisit des décorations. En fait, c'est ce qui fait que les gens ne vont pas au théâtre. C'est ça qu'il faut remettre en question. Mais au-delà de se retrouver, du coup, une espèce de posture politique en se disant « on fait un art politique », puisque c'était le cas, c'est quand même la base du théâtre, aujourd'hui... c'est perdu, ça. C'est-à-dire que faire des pièces en disant on monte Camus, c'est plus actuel que jamais. Non, en fait, Camus n'est pas plus actuel que jamais. C'est ça le problème aussi du théâtre, c'est qu'on a tendance à exhumer des choses à chaque fois. Alors c'est aussi le principe, hein, mais on met pas assez en valeur les écritures contemporaines. Les gens ont des trucs à dire aujourd'hui. Et moi, par exemple, dans le festival que j'ai co-monté avec mes collègues, le Toujours Festival, on ne propose que des pièces écrites par des auteurs et des autrices contemporains et contemporaines. C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi. La relecture de Camus, même si, alors, cette année, je le concède, j'ai programmé un Camus, parce que j'aime bien Camus, quand même, au fond. Mais c'était vraiment une entorse, et je ne le présente pas en me disant vraiment... Enfin, en tout cas, moi, dans mon fort intérieur, je ne pense pas que c'est ça qui re-questionne les gens. En fait, quand un mec de 50 ans... qui est de gauche, mais qui a bien bossé, qui est en fait un gros boomer, va voir ça, ça ne fait que le conforter, ça ne fait pas avancer les choses, enfin, ça ne choque personne, tout le monde est d'accord. Quand on va voir, je pense, un spectacle qui se fout de la gueule, comme les Chiens de Navarre le font, par exemple, dans un de leurs spectacles, des gens qui accueillent des migrants, et pourquoi ils le font, en fait, ça, c'est intéressant. Mmh. Parce que ça les touche, en fait, et que ça touche ce public qu'on a et qu'on ne doit pas mépriser. C'est pas parce que le public rêvé n'est pas un public de banlieue. On a le public qu'on mérite, comme je le dis. Donc, si notre public est un public blanc, bourgeois et vieux, il faut s'adresser à ces gens sans les laisser tranquilles. Mmh. Voilà. Et sans les mépriser non plus.
C'est quoi le texte qui parle le mieux d'amour ?
J'ai choisi un poème dans Le Prophète de Khalil Gibran. Alors pareil, j'ai regardé dans tous les épisodes que tu as fait avec tes invités pour ça, en me disant qu'il avait dû être cité. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si c'était le cas. Parce que...
mais il est cité dans un épisode qui n'est pas encore sorti à l'heure où on parle. Mais ouais.
Trop bien. C'est un livre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est un peu le livre... Il y a les deux poèmes. Il y a celui pour l'enfant qui vient de naître et celui sur le mariage. Bon, lui, il appelle ça le mariage, mais pour moi, c'est l'amour. Qui est souvent un texte que je lis ou que j'apporte soit pour un mariage, soit quand un ami à moi a un enfant. Je lui envoie toujours le poème de Khalil Gibran dessus parce que c'est hyper beau et c'est d'une sagesse incroyable, quoi. Je sais pas comment dire, mais c'est en gros ce qu'il dit sur l'amour. Il dit « vous buvez chacun dans la coupe de l'autre, mais ne buvez pas dans la même coupe. » Et je trouve que c'est le meilleur conseil imagé et poétique à donner à des gens qui s'aiment. C'est-à-dire, en gros, ils ne cessent de leur dire de partager les choses, mais de ne pas se fondre en une personne, ce qui est un peu le défi, pas forcément de l'amour, mais en tout cas du couple. Qui aujourd'hui, on est les premières peut-être générations avec celle de nos parents à mélanger couple et amour, donc on ne sait pas comment trop se dépatouiller de ça. Je pense que ce genre de choses nous aide, et les orientaux sont assez forts, je trouve, enfin les orientaux, hyper gênants, mais en tout cas, oui, en tout cas les cultures autres que les occidentaux voient ça, je trouve, d'une manière qui est tellement plus simple et plus belle. Quand on voit tous les livres qui sortent, réinventer l'amour, machin, c'est qu'on est vraiment dans une crise de l'amour. Ouais. Une crise du couple, une crise de l'amour. On le voit, toutes les autrices féministes ont envie d'exprimer ça parce que c'est réel, en fait, et que nous, notre génération, on est quand même les premiers à en faire les frais, là. Nos parents, il y a quand même beaucoup plus de gens qui se sont forcés à rester ensemble encore. Je sais pas ce que j'ai vécu, moi, mais on est quand même les enfants du divorce. Donc on est des pionniers. C'est Agathe justement qui avait écrit dans une de nos pièces, on est des pionniers. En fait, on essuie les plâtres et on fait une trouée vers un monde inconnu où on mélange des vieux concepts maritaux et des trucs ultra romantiques de films, de livres, de littérature, et c'est un gloubi-goulba. Oui, en plus bien assaisonné de patriarcat, donc forcément c'est complexe. Et ces poèmes qui sont, ils parlent de Dieu dedans, donc chacun peut le voir comme il veut. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'être religieux, de croire en Dieu ou en d'être spirituel même. Mais c'est de la sagesse, je dirais. Et je trouve que quand un enfant naît, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est votre enfant, c'est vous êtes un archer. Et votre enfant, c'est une flèche, mais vous n'êtes que le mouvement. Et en fait, vous êtes le passé. N'oubliez pas que jamais vous devez imposer à vos enfants. C'est du bon sens, mais ça manque beaucoup à notre culture, je trouve, parfois, dans les mondes dans lesquels on évolue. On se prend beaucoup la tête, on lit beaucoup de trucs de... Enfin, pas moi, mais le développement personnel, la parentalité. C'est des choses qui sont très importantes, qui font évoluer les choses, mais qui manquent de bon sens, je trouve, parfois. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'aime à la fois que d'être un très... un poète, voilà, et c'est aussi très simple, en fait, comme approche. Donc voilà.
Trop cool.
Mais je n'ai pas du coup parlé des fragments de discours amoureux, parce que j'ai vu que pour le coup, c'est la bible d'absolument tout le monde, mais c'est vrai que c'est une bible de l'amour. Ouais. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ouvre depuis 10 ans et que je perçois à chaque fois différemment. Il y a tout un tas de choses qui m'ont marqué dedans, de concepts qui sont... Et je ne sais pas pourquoi ce livre, il touche autant les gens alors qu'il est si formel en soi.
Bien sûr.
C'est pas émouvant comme livre.
C'est censé être une étude de sémiologie, quoi. Et puis tout le monde l'a lu en mode lyrique.
Exactement, c'est ça qui est marrant. Y a quand même, c'est que des références, en plus que franchement, que moi j'ai pas forcément. Donc, mais pourtant, ça touche en plein cœur les gens et c'est un truc qui serait actuel, qui n'a pas vieilli. Parce qu'il l'a consigné plein de petites choses de l'état amoureux qui sont. Qui correspondent à tellement de gens, à tellement d'époques de la vie, en fait. Et je trouve que c'est bien parce que, en plus, comme c'est un dictionnaire un peu, on peut tomber sur certains fragments qui nous parlent plus que d'autres suivant les périodes de la vie. Et quand je vois, quand nous, on l'avait adapté, on avait 23 ans, 22 ans, aujourd'hui, je suis certaine que si on devait répondre à ces fragments à notre manière, on y répondrait encore de manière totalement différente. Et ce seraient pas les mêmes fragments qui, par exemple, l'attente. C'est un truc qui touche beaucoup quand on a 20 ans, on attend un texto, quand on passe la trentaine, on attend toujours des textos parfois, mais c'est moins la question. Enfin, mais oui, cette bible-là est beaucoup citée, mais je pense à raison.
Et du coup, c'est quoi plus la question, passer 30 ans, si c'est pas l'attente?
Il y en a un qui me parle pas mal, mais je trouve qu'il parle aussi à 20 ans, c'est le monde plat. Il parle du monde, pas le monde plat, mais le monde plat, où il dit que quand on aime quelqu'un dans l'intime, quand on le voit dans la mondanité, il y a quelque chose qui s'effondre. Et ça, je trouve que c'est toujours assez vrai, surtout peut-être aussi dans nos vies de Parisiens, où finalement, on peut créer des mondes intimes dans nos chambres, dans nos colocs, justement, où on a des trucs aussi, on est dans des endroits très petits où on se met sous la couette, un truc très cocon. Et puis dès qu'on sort dans la vie sociale, qui est quand même forte à Paris, où en fait on a tendance à se modifier. On n'est pas les mêmes. Et donc, y a une forme de déception en se disant bah, il ne m'appartient plus complètement, il est au monde en fait, et il est à un monde médiocre. Donc, non, bah, c'est vrai, la mondanité rend médiocre. Bah, et quand on aime quelqu'un et qu'on le connaît intimement, on le voit se modifier. Mais ça marche aussi avec des amis. En fait, c'est pas que dans l'histoire d'amour. Hein, y a aussi des très bons amis avec qui on partage une grande intimité, une grande simplicité. Puis quand on se voit dans des milieux professionnels ou autres, bah, on se change et donc on se comprend moins. Voilà. Donc ça me parle plus. Ouais. Je dirais que c'est celui-là dont je me souviens. Mais moins sur tous les fragments suicides, catastrophes, qui sont en fait des trucs quand même...
Ça, c'est plus quand t'es ado, tu lis ça, t'es en mode oui, en fait. Ouais.
Oui, oui, grave. Et puis tout le rapport, on s'était toujours dit aussi qu'est-ce qu'aurait écrit Roland Barthes à l'ère de l'iPhone, enfin à l'ère de...
De Tinder.
Bien sûr. Par exemple, on se disait que bah, Marguerite Duras ou Roland Barthes, ça aurait été vraiment des gros clients, du commentaire. Parce que déjà, Duras avait déjà commencé un peu à écrire dans des journaux sur des crimes, sur du true crime et tout. Donc elle, je pense qu'elle aurait été totalement dans le tweet. À mon avis, elle aurait tweeté à mort. Et dans de l'écriture de livres sur Facebook, comme on voit pas mal de cinquantenaires qui font ça, qui racontent leur life total. Donc je pense que le rapport, et même du coup de Roland Barthes à l'attente, forcément aurait été différent, parce que lui, il parle vraiment de l'attente du téléphone. Et quand je parle à mes parents, il y avait vraiment ce truc où des gens restaient bloqués chez eux pour un téléphone. Pour un coup de téléphone. C'est un rapport à temporalité qui est vraiment...
Et puis même quand tu te donnes rendez-vous pour un date, bah, du coup, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc du coup, juste attendez. Et si l'autre ne venait pas, il ne venait jamais. Alors que là, tu peux envoyer des messages.
Il y a dû avoir de beaux lapins avant. Ouais. Je pense que le passe plus ça. D'incompréhension et de... Ouais, et le rapport à l'attente devait être différent.
Et même le rapport à l'attente dans le sens où si tu attends, bah, tu scrolles, tu lis un article, tu fais autre chose.
Et ouais, ça, c'est...
C'est vrai que l'attente pure, en fait, c'est hyper rare, quoi, en fait.
Ouais. Bah, on attend accompagné d'Instagram, ouais, c'est sûr. Enfin, c'est une évidence. C'est devenu. Enfin, je connais peu de gens qui ne sont pas connectés là-dessus, quoi. Donc, ceux qui ne le sont pas, ils restent des huluberlus. Comme certains darons de copines qui n'avaient pas de téléphone portable, on se disait déjà, ah, ils sont chelous et tout. Là, c'est ceux qui ont un portable, mais ils n'ont pas Instagram. Donc, déjà, ils sont. Oui, c'est un rapport à la vie qui est totalement différent, mais je suis sûre que ces auteurs-là auraient matché avec, je pense. Ouais.
Un texte qui provoque la réflexion.
Alors ouais, j'en ai deux, je dirais, qui m'ont marqué. J'avais lu, comme plein de gens, les livres du Comité Invisible, et aussi la théorie du Bloom de Tikkun.
Qui sont globalement les mêmes gens.
Voilà, qui sont globalement les mêmes gens.
On ne sait pas qui c'est, mais...
Oui, on voit un peu la bande de Tarnac, machin, tout ça. Aujourd'hui, j'ai un peu un regard un peu plus dur, parce que je trouve que c'est un amour très adolescent de ces livres-là, mais mine de rien, ils m'ont quand même marqué et changé, je pense. Ils sont très lyriques.
Ouais, c'est ça.
Mais ils ont une approche de la politique aussi qui est lyrique, qui est poétique... qui s'écoute aussi beaucoup parler, qui n'a pas beaucoup d'effets, qui n'a pas beaucoup d'effets. Si, ça serait c'est réducteur de dire ça, mais en tout cas, chez des lecteurs du Comité Invisible, il y a eu des réveils, parce que je pense que c'est aussi eux qui ont permis, pendant des années, il y a quand même eu beaucoup d'émeutes, et ils ont aussi été le fer de lance quand même de ça, d'un réveil physique quand même. Bon. Donc c'est pas rien. Et oui, ça m'a marqué parce que ça m'a... politique, ça m'a fait sortir du socialisme, déjà.
Du SOSDEM,
Exactement. Et ça m'a galvanisé, pendant plusieurs années. Ça m'a donné un sens, ça a magnifié l'idée de révolution. J'ai toujours été un peu critique parce que c'est un milieu très masculin, avec beaucoup de mecs, en effet, qui romantisent énormément, qui sont beaucoup dans le romantisme total, bien plus que les femmes, pour le coup, qui sont plus concrètes, je pense, dans les révolutions. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais ouais, même si aujourd'hui je vois ça avec un truc en disant que c'est très adolescent, je trouve que quand même ça a changé des choses.
Ouais.
Ça a radicalisé beaucoup de gens, je pense. Je vois chez des gens étonnants parfois ce livre dans des bibliothèques. Alors il y a chacun a son avis dessus, mais il a été diffusé.
Ouais.
Et Théorie du Bloom, alors c'est un livre plus fumeux, enfin franchement j'ai peut-être pas tous les outils pour avoir absolument tout saisi de ce bouquin, mais je trouve que ce que j'en ai... Parfois il y a des livres comme ça, qu'on comprend pas complètement. Enfin, faut pas se mentir. Je pense, moi, j'ai essayé de dire des trucs de Bourdieu que j'ai trouvé complètement imbitables et tout. Mais parfois, on a l'impression, par une phrase ou deux, d'avoir saisi quand même des choses fondamentales de ce qu'ils veulent dire, ce qui est plutôt pas mal. Et dans Théorie du Bloom, ça m'avait beaucoup marqué, en fait, le fait qu'il soit si poétique. Et si qui parle beaucoup en fait au théâtre, je trouve, ou au littéraire, hein, sur l'état de l'humain, dans ce monde machine, dans ce monde capitaliste. Et le mot bloom, il me parle aussi, quoi. Je trouve que ça m'avait touché de ouf, et ça rentrait dans ma matrice, quoi. Même si c'était complexe comme truc, et voilà. Donc je dirais que c'est des livres qui, c'est la question, c'est qui change la vie.
Ouais,
c'est ça.
Non, qui provoque la réflexion.
Ouais, qui provoque la réflexion.
Parce que t'as aussi changé la vie.
Ouais, et qui change la vie, carrément.
C'est pas rien.
Ouais, parce qu'il y a des livres qui sont actifs.
Ouais.
C'est-à-dire qui influent concrètement sur notre vie. Et il y a aussi un autre livre qui s'appelle La sauvagerie maternelle de Anne Dufour-Mantel, qui est pour le coup un livre d'une psy qui relate pas mal de ses entretiens avec ses patientes. Et toujours sur la figure de la mère, pour le coup, qui m'intéresse aussi beaucoup, ça m'a foncièrement aidée à comprendre plein de choses. Parce qu'elle lit aussi pas mal de concepts plus philo sur le côté cannibale de la mère. Et ça m'a beaucoup aidée, ouais, même à comprendre ma mère et à comprendre la posture de la mère, en fait.
Okay.
Donc, ouais, je dirais que c'est ces livres-là qui ne sont pas des romans, du coup, et qui sont des essais. Qui ont provoqué réflexion et mouvement chez moi dans les dernières années, on va dire. Voilà.
Et donc, ouais, qui t'ont fait avancer, qui t'ont changé la vie ?
Oui, le comité invisible, ça m'a permis de me radicaliser, d'avoir une conscience politique, je pense, plus forte que juste celle qui était familiale et qui était un héritage. Au début, d'ailleurs, on se disputait pas mal avec mes parents là-dessus, mais au final, maintenant, on s'est retrouvés dans un accord commun, mais... Ouais, ça m'a fait changer du roman familial. Ça m'a fait aller en manif. Ça m'a fait comprendre ce qui rend en colère, ce qui après ça reste un monde où la colère est fabriquée. Moi, c'est ça que je trouve difficile et que je vois que la révolution n'adviendra pas forcément par le comité invisible, clairement, parce qu'en plus ces gens ont vieilli. Aujourd'hui, ils ont 45 ans, 50 ans, ils sont dépassés, ils attendent la relève. Et pour le moment, elle est compliquée, mais eux, ils ont enchanté, enfin, je veux dire, ils ont créé un espèce de romantisme très 19e-iste, en fait, un peu, hein, je trouve, mais qui m'a fait, tout simplement gueuler, qui m'a fait intégrer des milieux dans lesquels je me suis pas forcément sentie bien, d'ailleurs. J'ai pas toujours collé au moule, en fait, du militant. Décolonial, de la militante féministe ou du militant d'extrême gauche. J'ai toujours eu l'impression d'être un peu hybride entre les choses et de pas vouloir, à aucun moment, j'arrivais à complètement prêter allégeance à une pensée. Surtout en voyant qu'elles sont souvent manipulées, en fait, de manière hyper autoritaire, mais comme tout groupe, en fait. Hein, c'est pas eux particulièrement, dans n'importe quel groupe, même dans des groupes d'artistes. C'est hyper difficile, le collectif. Et comme c'est des gens qui sont très exigeants avec le collectif, ce qui est une bonne chose, et ce qui n'est pas le cas des autres, et voilà. Mais il est difficile qu'il advienne quelque chose de concret de ça. Et aussi, pour le coup, le comité invisible, je pense, c'est des gens qui manquent de colère, parce que c'est aussi des gens qui viennent d'un milieu bourgeois, qui sont très éduqués, qui sont très masculins. Enfin, c'est très masculin. C'est quand même que des hommes.
Masculin ou masculiniste ? Masculin, ouais.
Masculin, voire masculiniste. Hein, c'est pas du tout des féministes, le comité invisible. Je dis pas qu'ils sont miso, mais en tout cas, ça faisait pas partie de la révolution en marche. Et je pense qu'ils en sont rendus compte quelques années plus tard et qu'ils se sont dit « Ah oui, c'est vrai, bien sûr.
»
Mais il y a beaucoup dans ces milieux-là de ce problème. Hein, c'est beaucoup d'hommes charismatiques qui prennent la parole, qui écrivent des articles, qui cherchent, en fait, qui n'arrêtent pas de dire « Il nous faut les banlieues, comme en 2005, il faut les banlieues avec nous, il faut les banlieues avec nous. » Mais c'est absurde de dire ça, et c'est ce qui se dit. Hein, même les Gilets jaunes, ils ont mis quand même beaucoup de temps à se... Enfin, ils ont mis beaucoup de temps. Ça a mis du temps à ce que les deux groupes se rejoignent. Ensuite, ça a été le cas, et moi, je l'ai vu de mes yeux, quoi. C'est des groupes qui se sont vraiment rejoints, et il y a eu des trucs hyper intéressants, mais... la bourgeoisie gangrène ces révolutions-là quand même, même moi je trouve. Et aujourd'hui ça fonctionnera pas comme au 19e siècle quoi, en tout cas on a envie de ça, il y aurait cette envie là que des intellectuels écrivent, dessinent les choses et qu'ensuite il y ait le peuple un peu pato qui aille casser des trucs, mais en fait les gens ont compris le coup, enfin ça fonctionne plus. Ça, on l'a vu, en tout cas, la répression et surtout, enfin, la faute à qui, pas, bien sûr pas aux apélistes, mais plutôt évidemment à la police et au gouvernement. Donc, c'est des révolutions qui pourront plus fonctionner comme ça, ou à moins d'avoir vraiment du sang, quoi. Mais on voit que là, bah, les dernières émeutes ont en fait finalement duré très peu de temps. Elles ont été très violentes, mais très courtes. Et la répression est bien trop violente pour qu'il advienne quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, tout le monde se fait réprimander, que ce soit sur Internet, en huant un président dans un stade. Enfin, c'est plus rien n'est possible. Donc, ces textes-là, ils ont vieilli. Et ils ont radicalisé plein de gens, ce qui est génial. Mais ils n'ont pas eu d'effet à une image révolutionnaire. Ça n'a pas eu lieu. Mais j'espère quand même que ça aura lieu. Et je trouve quand même que même si ces textes-là, on peut prendre du recul dessus, ils sont fondateurs, ils sont courageux, ils sont anonymes aussi, ce qui je trouve très fort. Même si, bon, on peut toujours, comme les Daft Punk, on peut toujours savoir qui c'est. Le fait de se positionner anonymement au monde, c'est quelque chose qui, pour moi, est l'avenir. Je serais pour moi, au fond, ne rien signer. Je trouve que ce serait beaucoup plus beau si les gens ne signaient pas leurs œuvres, s'il y avait un réel anonymat. Mais à partir du moment où un ne respecte pas ça, bah, en fait, on a tous envie de dire, bon, bah, du coup, si tu dis que c'est toi qui l'as écrit, bon, bah, je vais me dire que c'est moi qui l'ai. Enfin, voilà. Donc, mais je trouve que c'est courageux. Le fait de signer quelque chose, d'écrire des choses en anonyme, ben, c'est une belle façon d'écrire aussi. Ou même de les pseudos, les choses comme ça, je trouve que c'est mystérieux et c'est intéressant et ça donne de la liberté à l'écriture, ça donne beaucoup de liberté, je pense. On n'est pas obligé de correspondre à ce à quoi on a l'air. C'est quand même, c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'auteurs d'ailleurs qui ont écrit sous des pseudos différents, parce que quand même on voit pas leur visage aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est qu'on voit les visages de tout le monde, on peut pas, l'anonymat est difficile, quoi. Je veux dire, c'est des héros, les gens aujourd'hui, qui ne montrent pas leur visage. Et c'est une liberté incroyable, encore une fois. Donc, les Daft Punk, ils peuvent être un peu nuls dans la vie. C'est vrai que je pense que c'est des types qui mangent des brunchs. Enfin, ils ont rien d'intéressant, mais ils ont fait passer ce qui leur musique avant leur personne.
Mais tu veux dire, tu les vois pas, justement, comme on disait, dans la mondanité, où ça va du coup te décevoir de voir ton artiste dans un brunch ou.
Ouais, grave. Bah, si on cherche bien, et comme on est parisien, finalement, on finit toujours par voir ces gens dans un brunch. Mais. Ouais, je trouve que l'anonymat, ça donne beaucoup de force aux écrits. Et avant, c'était le cas. Hein. Je veux dire, c'est pas réac, mais je veux dire, avant, les gens ne connaissaient pas le visage des auteurs. Les gens de la radio, on connaissait pas leur visage. Moi, j'écoutais Laurent Ruquier toute mon enfance avec ma mère. Quand j'ai vu son visage, j'ai été un choc pendant une semaine. Il était... c'était plus dans mon imagination, quoi. Donc, le fait d'adapter tous les bouquins au cinéma, toutes ces choses-là, on a des images de tout.
Ouais.
Trop d'images.
Ouais.
Mais comme dirait Annie Arnaud, toutes les images disparaîtront.
Tout disparaîtra.
Voilà, exactement.
Un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
Ça, c'est la seule question sur laquelle j'ai pas trop eu de doute.
Ouais.
J'ai mis donc le livre de l'intranquillité de Pessoa.
Okay.
C'est vraiment, pour moi, un des plus beaux livres que j'ai lus. Je trouve que c'est un cadeau du ciel que ce mec existe. Et je me dis souvent que j'espère qu'il y a d'autres Pessoa, et j'en suis sûre. Et ce qui est magique chez lui, c'est comme il a été découvert de manière posthume. Enfin, je crois qu'il publiait des nouvelles, il publiait des choses, mais ça a jamais vraiment marché. Et donc, c'est un... Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mec qui a relié tous ses écrits pour en faire un livre. Donc, en plus, je trouve ça beau, un livre qui a été finalement... qui est mouvant, c'est-à-dire que c'est un autre mec qui a fait un livre de ses écrits, donc c'est riche, je trouve, comme façon de faire. Encore une fois, c'est pas l'anonymat, mais en tout cas, c'est aussi des choses écrites à plusieurs mains qui sont collectives, en fait. Et je trouve que c'est hyper romantique, pour le coup, et beau, le fait de se dire qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont sûrement de grands écrivains et qui ont des choses magnifiques qui ne seront jamais lues. C'est à la fois triste et en même temps hyper réconfortant. il y a tellement de choses. Après, je dis, enfin, je vais pas être critique, mais il y a tellement de choses qui sont pas ouf, qui sont pas publiées, que c'est aussi rassurant de se dire qu'il y a tellement de belles choses qui ne sont sûrement pas. J'aime bien cette idée, ouais, de me dire qu'il y a plein d'artistes en fait géniaux et sûrement plus que bien plus que ce qu'on croit, qu'on ne lira jamais, dont on ne verra pas les films, dont on ne verra pas les pièces.
C'est un peu triste aussi.
C'est triste, mais c'est triste. Et en même temps, c'est rassurant de se dire qu'il y a plein d'artistes. Ouais. Enfin, il n'y a pas que les gens qui s'autoproclament et qui ont le choix de s'autoproclamer artistes.
Ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a, quoi.
Non. Ouais. C'est une tout petite partie de l'iceberg, je suis sûre, en termes de la beauté de ce qui se produit. Le fait que quelqu'un aille dans une malle après sa mort, un peu comme Anne Frank. Enfin, après, je pense que, je sais pas si beaucoup de gens ont cette envie, mais quand on écrit un journal intime, quand on est enfant, moi, j'ai toujours eu la volonté, au fond, que peut-être que quelqu'un le trouve et le publie. Enfin, je trouve que beaucoup de fois, quand on écrit, on a quand même, on pense à celui qui va le lire, même si on le montre pas, en fait. Et les gens, après, qui envoient leurs manuscrits à des maisons d'édition sont aussi des gens très courageux, je trouve, parce que montrer ce qu'on écrit, c'est d'une impudeur totale et c'est un grand courage, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'admire les gens qui écrivent. C'est une hygiène de vie, c'est un rapport à la solitude qu'on n'a pas beaucoup dans d'autres métiers artistiques, en fait. Pour le coup, le théâtre, c'est pas un métier de solitude. Enfin, c'est un peu des solitudes dans le groupe, mais c'est pas seul à sa table. Enfin, il y a une espèce de beauté aussi là-dedans, je trouve. Et le fait que Pessoa ait été quelqu'un de si malheureux, mais qu'il l'ait si bien écrit, et qu'en fait, on le lise, c'est tellement beau, en fait, je trouve. Et comme il n'écrit que sur le renoncement, que je trouve une valeur qui est très belle, en fait, et qui n'est pas, dont on parle pas beaucoup. On parle de décroissance dans l'aspect politique, mais le renoncement, en fait, je trouve que c'est une notion qui est super belle, que je retrouve dans un autre bouquin que j'aime beaucoup, L'homme qui dort. Le fait d'être dans l'économie des choses. On parle beaucoup, en effet, d'écologie, donc on va faire moins, on va moins prendre l'avion, mais en fait, on n'est pas du tout dans l'économie du commentaire, dans l'économie de la parole. On commente tout, on parle tout, on a du contenu, enfin, on est dans l'époque du contenu, donc les gens sont créateurs de contenu, mais on ne sait pas de enfin, on ne demande pas ce qu'ils ont à dire, mais il faut qu'ils comblent le vide. On a du commentaire partout. Et le fait que lui, en fait, s'il n'a pas été publié, quelque part, c'est pas pour rien. En fait, c'est parce qu'au fond, c'était pas sa démarche, je pense. Et qu'il écrive de manière si belle, le fait de ne pas faire les choses, je trouve ça magnifique. Ouais. Il y a aussi un bouquin qui s'appelle Artiste sans œuvre. C'est plus, pour le coup, sur l'art contemporain et tout, mais c'est aussi une ode au dilettantisme, c'est-à-dire au fait de ne pas faire, au fait de faire mal. On est tellement dans un monde où, en tout cas, moi, je le vis, et dans le milieu artistique, en fait, c'est d'une hypocrisie folle, parce que les gens sont dans la productivité, dans l'envie de répéter beaucoup, beaucoup, travailler, alors qu'on sait que ce n'est pas que le fruit du travail, ce qui sort, enfin... Donc, il y a un peu une dissonance, je trouve, aujourd'hui, dans nos pratiques. On nous demande aussi forcément beaucoup, en fait, de travailler sur en termes de politique culturelle, c'est-à-dire, en fait, d'être assistants sociaux, d'être aide pour les vieux, aide pour les jeunes, de combler un manque dans la société de la République, en fait, hein, clairement, qui, en fait, on a bien vu l'été apprenant d'Emmanuel Macron, c'est les artistes, pour avoir de l'argent, vous devez aller dans les EHPAD et aller dans les écoles. Ouais. C'est un truc qui est hyper beau, et moi, que j'ai toujours aimé faire, mais ça devrait pas être une monnaie d'échange pour créer. C'est un deal qui a été accepté, en fait, qu'on accepte tous tacitement, mais qui n'est pas normal. Ouais. Un artiste n'a pas à donner un truc à l'État en échange de créer. Enfin, c'est mettre l'artiste à un endroit qui n'est pas...
C'est un peu remplacer un service public qui devrait exister, qui n'existe pas, quoi.
Complètement. Nous, avec notre ancienne compagnie, on a fait beaucoup de prévention Non, on a beaucoup parlé de féminisme, et notamment aussi de tout l'aspect d'éducation sexuelle, qui n'est pas faite. Et c'est quand même dingue de dire que nous, on l'a appris toute seule, mais on n'a pas de formation, normalement, pour ça, en fait, pour recueillir des paroles de... Dans une classe, il y a toujours une ou deux personnes qui subissent un inceste, qui a été agressée. Donc, en fait, on s'est retrouvés dans des situations qu'on ne pouvait pas forcément gérer. C'est à nous de... On nous attend là-dedans. Et si on ne le faisait pas, ben, ce serait un vrai manque. Donc ça, c'est un endroit où on met les artistes qui est dans une monnaie d'échange qui n'est pas la bonne, je trouve. pour revenir à Pessoa en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai digressé là-dessus, mais je le lis que à certains moments parce que c'est très déprimant quand même.
Ouais, okay.
C'est extrêmement déprimant. C'est très dur, mais il est dans une pureté de ce rien où il dit quand même quel bonheur de savoir que je suis grand et de n'être rien. Qui peut aujourd'hui dire ça? Personne. En fait, tout le monde a la volonté de briller. Le métier, par exemple, d'acteur, c'est un métier qui remue tellement de choses et qui vont avec en plus ce monde d'ego trip total. Plus que jamais, c'est difficile. Je veux dire, renoncer à soi-même dans ce qu'on fait, dans nos créations, c'est super difficile.
Ouais.
Il faut se vendre soi. Il faut faire être sur Instagram, montrer qu'on travaille. J'ai fait ci. Et ça fonctionne parce que les gens, quand ils voient sur Instagram, c'est super. Tu bosses beaucoup en ce moment. Non, c'est une illusion.
Des posts. Ouais.
Tout ça est une illusion. Le courage de renoncer, peu de gens l'ont. De renoncer à sa classe sociale, de renoncer quand elle est avantageuse. Le courage de renoncer à la gloire, de renoncer à l'amour, de renoncer en fait dans une économie totale, d'arrêter de faire des choses. Et que ce n'est pas que arrêter de prendre l'avion et arrêter de patrier ses déchets. C'est plus large que ça et je pense que... Enfin, moi, c'est un peu une religion. Malheureusement, c'est une religion qui est pas mal vue comme un truc de loser. De beautiful loser, quoi, de perdant magnifique. Mais j'admire beaucoup ces gens. Je trouve que ça me donne de l'espoir de voir qu'on peut être si talentueux, ne pas avoir envie d'être connu à tout prix, d'accepter de ne pas l'être, de ne pas vouloir rajouter des choses.
Ouais.
En se disant, il faut que je rajoute ma pensée, ma vision de ça, mon analyse de ça, mon commentaire sur ce poste-là, parce qu'en fait, j'ai mon avis dessus, et de se dire, ça, je ne le dirai pas.
Ouais.
Ça manque. Et moi, je me dis souvent, même si je pense que je parle depuis une heure, donc je rajoute aux commentaires, mais je me dis souvent, réfléchis avant de parler.
Ouais.
Y a des choses qui ne méritent pas d'être dites.
Ouais,
mais c'est vrai.
Ouais.
Y a des choses qui ne font que mettre du bruit, en fait. Y a des choses qui ne méritent pas d'être faites, qui devraient ne pas être faites. Donc, j'admire plus les gens parce qu'ils ne font pas que parce qu'ils font.
Ok.
Voilà.
Ouais.
Et cette espèce de beauté dans le renoncement, dans le ne pas faire. C'est ce que je dis quand on se demandait souvent pourquoi on fait du théâtre, pourquoi on est artiste. Au-delà de faire quelque chose, c'est aussi de ne pas faire tout le reste, pour moi.
Ouais.
Quand on fait une pièce, ben, y a plein de choses qu'on ne fait pas, en fait. Et
ouais.
C'est plus ça qui est beau que je trouve que ce qu'on fait. Donc voilà, c'est vraiment une bible pour moi aussi que je relis. Parfois, c'est dur à relire parce que ça me touche quoi, beaucoup, mais... C'est rassurant.
Mmh.
Comme je dis, ça me rassure. Et j'espère que d'autres gens, par exemple, dans nos entourages, ont ça dans leur. Cette beauté-là dans leur carnet. Et même si je ne les lis jamais et que personne ne les lit jamais, je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un autour de moi qui écrit aussi bien et qui dit des choses aussi vraies. Mais parce qu'elles elles ont pas la volonté d'être montrées à tout prix, elles sont hyper belles.
Ouais.
Tu vois ?
Mmh.
Elles ne rentrent pas dans un monde, dans un courant de pensée. Et après, je ne critique pas du tout parce qu'il y a plein de choses qui font avancer la pensée, plein de sujets, les révolutions féministes et tout. Donc ça, heureusement. Mais il faudrait qu'il y ait plus de choses, de dire ça, je ne vais peut-être pas le faire. On peut aussi se dire, est-ce que c'est intéressant que je fasse cette pièce? Est-ce que c'est intéressant que j'écrive ce texte-là? Vraiment, que je le montre aux gens? Est-ce que ça fait avancer les choses? Est-ce que c'est vraiment beau? Enfin... D'être honnête et lucide avec soi-même, malheureusement, ça manque, je trouve. Il y a plein de trucs où... Après, le fait de faire, c'est aussi... c'est la vie. Donc, on ne peut pas retirer ça aux gens. Mais j'ai déjà vu des gens qui ont dit « Je voulais faire ça, mais finalement, je ne vais pas faire ce film-là. » Tu vois.
Ouais.
Je trouve que c'est beau de se dire
qu'on
existe aussi, on se définit aussi par ce qu'on ne fait pas.
Ouais, c'est ça. Et peut-être pourquoi tu fais les choses que tu fais aussi? Est-ce que c'est juste pour ta petite boutique? Enfin, il y avait Virginie Despentes, il y a un texte d'elle auquel je pense souvent, où elle parle un peu de ça, genre chacun sa petite boutique, chacun son petit truc qu'on défend. Et puis ouais, c'est vrai qu'on se vend soi-même. énormément, quoi, aujourd'hui. Chacun a son compte Instagram, chacun a besoin de visibilité.
On est nos propres communicants, en fait. On est tous une petite agence de communication. Dont on comprend les rouages, hein. On est quand même encore plus les gens qui ont 18 ans aujourd'hui, mais ouais. On l'a vite appris, on a vite compris que poster des photos, que montrer qu'on travaille, en fait, que être dans la communication autour de ce qu'on fait, c'est absolument, ça nous semble absolument nécessaire. Et on travaille tous pour nous-mêmes. Mmh. Et ça nous éloigne complètement d'une pratique créative qui est vouée au ratage, à l'échec.
Ouais.
Le théâtre, c'est quand même une science de l'échec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on se dit « c'est bon, c'est fait, c'est bien ». C'est jamais bien, c'est jamais bon, c'est toujours un truc qui foire, c'est toujours foireux. En fait, c'est un art foireux. Après, j'imagine que les auteurs ou les réalisateurs ont aussi toujours beaucoup de mal à mettre un point final à un montage ou à un manuscrit en se disant « bon, voilà, allez, ça y est, ça part ». Mais quelque part, après, on a un objet qui reste.
Ouais.
Le théâtre, c'est éphémère. On a des captations, mais on se rend bien compte que la captation, elle survivra pas aux pièces, parce que c'est pas ça. Ça marche pas. On l'a vu pendant le Covid, des gens ont essayé de faire du théâtre filmé. C'est l'antithèse du théâtre. Donc, en fait, c'est un art éphémère et c'est un art foireux. C'est-à-dire que ça, c'est le spectacle vivant. Ça, pas que le théâtre, d'ailleurs, hein, mais le spectacle vivant en général, ça tient à tellement d'éléments... au-delà de nous, tu vois, quand on fait le festival tous les étés, c'est la pluie qui régit notre vie, en fait. Donc on est tributaire d'éléments qu'on ne peut pas contrôler. Ça, c'est beau aussi dans ce qu'on fait, mais c'est dangereux, c'est spécial.
Un texte à offrir.
Alors, un texte à offrir, j'aurais mis « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier
okay. ».
De Stieg Dagerman, ça se trouve en PDF pour le coup sur internet, donc tout le monde c'est très court, quoi. Ou quand on l'achète en papier, c'est un livre tout fin. C'est un peu comme en fait, je me suis rendu compte en faisant la sélection de ces auteurs là qui sont plutôt masculins que c'était beaucoup des mecs déprimés, enfin Pérec, ouais. L'homme qui dort, il y a aussi Le loup des steppes d'Herman Hesse que j'aime beaucoup, Pessoa, et Stieg Dagerman, c'est un peu les livres de la déprime. Mais j'aime énormément, en fait, ça me touche énormément. Et rien que le titre, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, voilà, tout est dit dans ce texte. Donc, je trouve que c'est un texte facile à lire, qui est court. Donc, je trouve qu'à offrir, je l'ai déjà offert, en effet. Okay. Je l'envoie aussi, pareil, aux gens, et j'ai découvert ça avec des gens qui le jouaient au théâtre. Je pense que c'est un peu un texte qui est aimé par les théâtreux.
Okay.
Et pareil, c'est des grands mélancoliques, des grands dépressifs. Je pense que c'est un peu Après, j'ai jamais lu Cioran.
Ah ouais.
Et ça, il paraît que c'est pire que tout en termes de dépression.
Je crois que. Attends, je réfléchis, mais. Ouais. On parlait un peu de Houellebecq avant, et c'est vrai que Houellebecq aussi, t'as un peu envie de te flinguer.
Ouais.
Mais Cioran, c'est un peu la même, la même famille. Ouais.
Après, bizarrement, par exemple, Houellebecq, je trouve que c'est vraiment une littérature d'hommes.
Ouais.
Dans le sens où, autour de moi, il y a beaucoup d'hommes qui sont fascinés par son écriture au-delà du personnage. Voilà. Mais pour le coup, c'est poisseux pour moi.
Ouais,
l'écriture de Houellebecq, c'est...
En fait, le truc, c'est que Cioran, quand je lis, j'ai pas forcément envie de me suicider parce qu'il y a une sorte de lyrisme quand même, de romantisme où le suicide et tout, il fait que parler du suicide, mais au final, il y a une sorte de charme et de poésie de ça, et au final, c'est assez agréable. Mais ouais, Houellebecq, ça me donne vraiment envie de mourir parce que... Ouais, c'est ça, exactement, c'est poisseux, et ça montre que, enfin, dans sa vision du monde, rien n'est vrai, tout est rapport de domination, tout est rapport de pouvoir, les mecs, ils pensent qu'à baiser, tout le monde est raciste, enfin, voilà, donc c'est, tu te dis vraiment, en fait, ça vaut pas la peine et voilà, donc c'est pour ça, c'est déprimant, peut-être sur un autre plan, quoi.
Complètement, lui, oui, c'est que des portraits crasseux de pauvres types,
ouais.
Dans lequel je pense pas mal d'hommes sont rassurés, en fait, de pouvoir s'identifier en se disant, oui, on peut, il y a une littérature pour ces crasseux et ces pauvres types nuls et médiocres. Et je pense que ça rassure pas mal d'hommes à un endroit, dans le petit endroit crasseux qu'ils ont en eux ou médiocre, ou la peur d'être un pauvre type. Qui moi me touche pas du tout. C'est vrai que Houellebecq, ça m'est toujours tombé des mains. Je m'identifie absolument pas. Et en effet, ça me déprime plus qu'autre chose de voir. Après, il fait un état des lieux, d'un monde un peu dégueu. Hein, et c'est intéressant en soi, mais ça marquera en tout cas peut-être quelqu'un qui comédie humaine, quoi, de notre époque. Mais ouais, je préfère les vrais dépressifs.
Ouais.
Qui ne font que parler de leur suicide prochain et qui sont très courageux. Ouais, je pense que j'admire beaucoup les gens très dépressifs qui écrivent quand même, qui survivent à leur manière et on les met pas assez en valeur en fait. C'est, je trouve, voilà.
Ouais.
Ouais.
Ouais, puis finalement écrire sur le suicide. Enfin, je crois que c'est Nietzsche qui dit ça. La pensée du suicide, finalement, ça t'empêche de te suicider, quoi. Ça.
Complètement. Ouais. Oui, oui, de ouf. C'est le. Oui, oui. Comme on dit, on en parle. Mais le fait d'en parler, c'est en fait pour tous les gens. Tout le monde vit des épisodes déprimants, voire dépressifs dans sa vie. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est global. Le suicide. Tout le monde n'est pas suicidaire, mais tout le monde, la peur de la mort, en tout cas, un rapport à la mort et même au suicide, parfois, bah, d'autres gens autour de soi ou ouais. de personnes suicidaires autour de nous. C'est un truc qui plane et c'est quelque chose qu'on met en dehors, enfin, qu'on met en dehors de notre quotidien. C'est, on s'éloigne des gens qui vont mal, on les rejette, même si on les aime. Hein, ça nous dégoûte. On a l'impression que c'est peut-être quelque chose qui va se transmettre. Comme une maladie. Et quand on voit des gens qui écrivent là-dessus de manière aussi honnête, ouais. Pour ceux qui survivent sur cette terre, je trouve que c'est rassurant, ouais. Okay. Ouais.
Et donc finalement, c'est un bon cadeau d'offrir un auteur dépressif, quoi. Parce que peut-être certaines personnes pourraient mal le prendre, ou je sais pas.
Oui, alors je l'offrirais pas à quelqu'un qui est au bord du suicide. Mais je crois que, en fait, ces auteurs-là, ils font du bien aux gens qui vont pas bien.
Ouais.
Et bien sûr, enfin, on se sent moins seul.
Ouais.
Quand moi, j'ai déjà lu Pessoa à des moments où j'allais très bien, j'ai trouvé ça magnifique, et des moments où j'allais pas bien. En fait, ça m'a mis dans des moments de grande tristesse, mais c'est tellement rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit, qui l'écrit mille fois mieux que moi je pourrais jamais l'écrire, ou qui l'exprime mille fois mieux, qui magnifie ce moment-là où on se dit, ok, ce moment-là, il mérite d'être vécu.
Ouais.
Il a été écrit par quelqu'un, il a été vécu par d'autres, et je fais partie d'un. Je suis une poussière dans la dépression globale de ce monde, donc c'est. Moi, je trouve ça rassurant.
Mmh. Mmh. Et c'est ton anniversaire aujourd'hui. Et on t'a déjà offert un texte aujourd'hui, du coup ?
Non, on m'a pas. Ben, j'ai pas encore reçu tous mes cadeaux de personne pour y gâter. Non, je sais pas. Non, je sais pas si on va m'offrir un livre. On verra.
Bon, attends, ben, du coup, comme c'est ton anniversaire, je t'ai apporté un petit livre.
Oui.
Attends, faut juste que je le trouve. Tiens.
Ah, merci beaucoup, j'ai un cadeau. Alors là, je suis en train d'ouvrir.
J'espère que tu l'as pas déjà.
Non. Trop bien. Alors, c'est Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes. Trop bien. Mmh. Ben, merci beaucoup, Arthur.
Ben, de rien. Et donc, c'est un collectif qui a fait ça, qui s'appelle Les Jaseuses.
Ouais.
Et donc, en fait, il y a pas mal de gens plus ou moins proches du collectif qui ont écrit des petits textes dedans, à chaque fois sur une figure mythique, mythologique. Enfin, voilà, plus ou moins. Plus ou moins féministe, sous une perspective féministe en tout cas, et ça, j'aime bien parce qu'il y a plein de petits textes que tu peux picorer.
Ouais. Ce genre de livre, par exemple, c'est hyper bien pour monter des. Pour quand on travaille sur des pièces, par exemple, avec nos élèves. L'année dernière, on a travaillé sur les métamorphoses d'Ovid, ou en tout cas, c'est toujours bien de pouvoir avoir des. Enfin, là, par exemple, je me dis que ça aurait pu grave servir en fait.
Ouais, bah c'est ça, je me dis c'est un petit dictionnaire, donc en effet, toi, dans ton travail de mise en scène, j'espère que ça peut t'inspirer.
Bah, carrément, franchement, ouais, de ouf. C'est trop bien, trop intéressant.
Et du coup, dedans, il y a notamment des textes de Sophie Bénard, Camille Isler, Eva Belgarbi, qui sont toutes les trois passées dans le podcast.
Trop bien.
Et on les embrasse, voilà.
Ouais, bah merci d'avoir écrit ce livre, chères autrices. Ça a l'air trop bien. Je suis très contente. Merci beaucoup.
Un texte dans lequel tu aimerais vivre ?
Alors, j'ai d'abord choisi un texte dans lequel j'aimerais pas vivre.
Okay.
J'ai choisi « Si c'est un homme » de Primo Levi.
Ok, ouais, on a vraiment envie de vivre là-dedans. Mais...
Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que aussi, pareil, c'est un livre que j'ai lu plein de fois. Mmh. Notamment des moments où j'avais été dans des situations que je trouvais douloureuses. Notamment les deux années où j'ai fait Avignon off avec ma compagnie. J'ai lu les deux années « Si c'est un homme » parce que ça me faisait relativiser sur les moments où on se dit « Ah, quel enfer, je vis un enfer !» Donc c'est super bizarre, mais j'ai toujours eu besoin dans ma vie de revenir au point Godwin. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est marrant parce que j'ai toujours eu besoin de... J'ai régulièrement besoin de relire des choses sur la Shoah. Mmh. Et enfin, j'étais obsédée par la Shoah.
Okay.
Alors que j'ai pas du tout d'origine ou de famille juive. Donc, c'est pas du tout une histoire qui me concerne en soi. Bon, après, comme plein de gens, je pense qu'on a été traumatisés, mais moi, j'étais particulièrement avide. J'ai vu beaucoup d'images enfants, j'ai lu tous les livres possibles. Oh. Toutes les rafles, je connais bien les trucs. J'ai même mené des enquêtes dans la ville de Toulouse pour retrouver des logements où étant... Enfin, j'étais fascinée et horrifiée. Et souvent, j'ai besoin de revenir à des auteurs autour de ces sujets. C'est hyper simpliste, hein, mais ça me... Enfin, voilà, c'est tellement incroyable comme événement et terrible que il y a pas beaucoup de fiction qui me transperce autant, et bizarrement finalement dans ce que j'ai cité il y a pas tant de romans. C'est beaucoup, il y a soit de l'autofiction ou et c'est vrai qu'enfant par exemple je n'aimais pas les dessins animés, j'ai plus de mal avec la fiction quoi. Je crois que j'aime bien les documentaires, j'aime bien le vrai. Donc en tant que ou lectrice ou spectatrice. Et donc, ouais, Primo Levi, clairement, c'est un truc que je relis parce que je me dis, voilà, que j'aimerais pas être de vivre. C'est un livre dans lequel je n'aimerais pas vivre et qui m'aide à relativiser des petits drames bourgeois parisiens que je vis et qui, voilà, c'est un petit tips comme ça. Si, ouais. On galère
si jamais
un
ça
peu
va
moment,
pas bien, voilà. Relisez Primo Levi.
Voilà, ouais. Si vous passez des vacances de merde, et c'est l'été aussi. Ouais. Moi, c'est une lecture d'été, bizarrement.
À la plage.
Oui, ouais. Complètement. Ça me fait fait prendre distance. Cure
de rappel.
Exactement. Ouais. Il y a un livre dans lequel j'aimerais vivre. J'ai mis Les Vagues de Virginia Woolf.
Ok.
Parce que c'est un livre de copains. C'est un livre sur l'amitié. Mmh. Et c'est assez. Bah, on suit, je sais pas combien ils sont, je sais pas, 6-7 potes de leur enfance à à la cinquantaine, je dirais. Mmh. C'est vraiment un truc sur l'amitié, l'évolution des gens, un peu qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, et qu'est-ce qu'on va devenir, comment les liens vont-ils se redistribuer. C'est hyper beau. Ouais. C'est un beau livre sur l'amitié, ouais, je trouve.
Ouais.
Et comme l'amitié, je pense comme beaucoup aussi de trentenaires qui sont pas forcément en train de vivre en couple et d'avoir des enfants, on compte beaucoup sur notre famille choisie. Mmh. Et c'est hyper important, en vrai. Je trouve que c'est un énorme cadeau qu'on a encore plus que nos parents. Même s'il y a des gens de l'âge de nos parents qui ont des grandes amitiés, nous, on vit beaucoup entre amis. On travaille, en tout cas, moi, je travaille avec mes amis, je vis avec mes amis. Voilà, je fais tout avec eux et j'ai pas lu Éloge de l'amitié, je sais pas si c'est bien ou pas, mais le titre me parle, quoi. En tout cas, on a de la chance de pouvoir vivre ces amitiés-là de manière libre, d'avoir du temps pour les vivre, d'avoir... des lieux, des vacances, enfin, toutes les départs en vacances, les fêtes, tout ça, je trouve que ça, c'est hyper important dans notre construction et pour moi, c'est hyper important. Mmh. Donc, ce livre-là, je le trouve beau. Ouais. Et en même temps, bah, les amitiés, c'est aussi des amitiés qui se défont, qui se refont. C'est pas forcément un long fleuve tranquille et on a souvent tendance à penser que tout le drame se vit dans les relations amoureuses alors que, c'est pas vrai, les relations d'amitié sont souvent extrêmement fortes et on les relègue parfois en deuxième priorité. Et moi, c'est pas mon cas. En tout cas, j'essaie de pas voir les choses comme ça. Donc, ce livre est beau parce qu'il parle du temps qui passe aussi dans les amitiés. Et c'est à la fois très nostalgique et à la fois très beau.
Ouais, j'ai l'impression que le groupe, c'est un truc qui est important pour toi. Donc là, en parlant d'amitié, en parlant du travail, quoi, de la mise en scène, du théâtre, qui est un art collectif, et aussi dans certains autres textes, de celui de Khalid Gibran, où il était question du couple, et en fait, chacun doit garder quand même son individualité dans le couple, et quand même, tu parlais aussi de la politique et du fait que dans des groupes militants, c'est ça qui peut t'angoisser de temps en temps, de pas pouvoir toujours garder ton individualité, tes opinions. Donc, est-ce que t'as un rapport un peu ambivalent comme ça au groupe?
Complètement. Complètement. Et je me rends compte que, même autour de moi, on est souvent à se dire, nous, on est des solitaires. Mais je dis souvent, on n'est pas des solitaires. Si on était vraiment solitaires, on vivrait pas à Paris. Ouais. On prendrait des vrais temps seuls. Et en fait, ces vrais temps seuls, en fait, on les a pas. Enfin, moi, je les ai pas dans ma vie. Mmh. Et je souffre du groupe, mais en même temps, il me fait vivre.
Ouais.
C'est-à-dire que quand je répétais avec la compagnie, je trouvais que la posture du metteur en scène, elle est souvent dans une grande solitude.
Ouais.
On est face aux comédiens, à ce bloc d'émotions et parfois aussi de revendications, et on est tout seul en train de... On se sent tout seul, on ne l'est pas, mais on se sent tout seul à des moments. et les autres sont insupportables. Enfin, mais ça, je pense que c'est mon cas, mais c'est le cas des autres aussi peut-être. Mais il y a des moments où le groupe, je vois qu'il va dans le mur, quoi. Mais même dans les groupes politiques, dans notre festival, enfin, c'est des moments où en fait c'est irréconciliable. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, on est tellement tous différents, on a tellement des façons de vivre, de voir les choses différentes qu'on il y a des impasses. Mmh. Dans le couple, c'est pareil. Quand je vois, j'assiste par exemple à des disputes de couple d'amis ou que je vois des situations de couple terribles, je vois qu'ils sont en miroir et je me dis en fait c'est horrible, c'est très difficile à dépatouiller. Il y a des impasses qui rendent fou et en même temps, ça me donne toujours envie de continuer à essayer de se comprendre. Je pense que c'est un peu le. C'est un peu nunuche, mais c'est un peu le credo du couple, de l'amitié, c'est. Voir ce que t'as en commun avec les gens et pas ce que t'as pas en commun à tout prix. Mmh. Et essayer d'essayer de se comprendre, ne jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire, des moments où on s'engueule, il y a des moments où on se dit, mais on n'a rien à voir, mais toi tu penses ça, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Nous sommes deux animaux tellement différents. Et en même temps, ce qui fait qu'on reste amis avec les gens ou qu'on reste amoureux des gens, c'est qu'on a envie de les comprendre. Donc, ça, c'est un peu le credo. Mais en effet, parfois, le groupe, il est trop... je pense que n'importe qui sur un tournage peut dire ça, sur ces trucs de troupe. La troupe, c'est trop sympa, mais il y a des moments où c'est l'enfer. Ouais. Les gens sont... Il y a des dynamiques de domination, où il y a des têtes de... Non, je vais pas dire têtes de turc, tu comprends ça. Il y a des
boucs émissaires.
Il y a des boucs émissaires, bien sûr. Voilà, il y a des boucs émissaires. Et c'est des. Il y a tout d'un coup des alliances entre deux personnes, donc qui sont contre une. Enfin, c'est que ça. Et ça n'est pareil. C'est comme le théâtre, c'est jamais bon. Il y a jamais à un moment où on se dit c'est bon, on a trouvé, on s'entend super bien pour la vie. Là, on a 10 belles années de superbe entente. Mmh. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est épuisant. Moi, j'ai écrit plein de textes pour le coup pendant des répétitions en mettant « je n'en peux plus, je hais mes congénères, je les déteste, je peux plus supporter leur envie d'être aimé, leur envie d'être compris, j'en ai marre ». Et eux de même, j'imagine, devaient aussi se dire « ce groupe m'étouffe, j'en peux plus ». Et on y retourne quand même. Le festival, c'est pareil, c'est vraiment la colo de vacances pendant 2 semaines où on est les uns sur les autres et on adore ça. Et en même temps, c'est éphémère, heureusement. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est impossible. Mais on aime être les uns sur les autres. Ouais, il y a un truc... on a besoin aussi, parce que même si on est des artistes, donc on est quand même des bourgeois, on est aussi souvent des artistes précaires. Et mine de rien, l'entraide est hyper importante. Et elle existe quand même, je trouve. Il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de groupes d'affinités où les gens se... Bah, même les groupes féministes, hein, c'est quand même des énormes réseaux d'entraide. Peut-être un des plus, je pense, des plus forts et des plus efficaces. C'est extrêmement rassurant. C'est-à-dire que quand t'es dans la panade, quand t'es une minorité, quand t'es précaire, quand t'es dans une situation qui est pas ouf dans notre société, t'as quand même des gros réseaux de solidarité qui existent. Et à Paris, c'est le cas. En tout cas, on a facilement accès à ces réseaux-là. C'est-à-dire des cantines solidaires, des groupes féministes de parole sur tout un tas de sujets que tu peux quand même facilement intégrer, je trouve, auxquels t'as facilement accès. Mmh. Quand t'es à Paris, encore une fois, je dis, mais c'est un cadeau et c'est quand même trop bien, ça. Enfin, et moi, je me sens pas seule, je me sens pas à poil, quoi. Je me dis pas, c'est la galère, je suis seule. Non, je me dis, j'ai mes amis, mais c'est aussi parfois des gens qui se comportent comme des amis, mais qui n'en sont pas... les groupes comptent. Mais parce qu'aussi, on n'a pas d'enfants, et donc on n'a pas d'enfants. Enfin, les gens commencent à avoir des enfants, mais beaucoup plus tardivement, donc on a besoin, on a la place pour ça, et on a besoin de recréer des cellules. Heureusement que maintenant, c'est plus que la cellule familiale qui existe comme étant le seul réseau d'entraide qui puisse exister, qui en fait est aux dépens de souvent des enfants et des femmes, quoi. Donc, dans les amitiés, c'est plus égal. On peut parler avec des amis plus facilement, par exemple, c'est plus facile de dire à des copains « Ouais, il y a un côté un peu masculiniste dans votre façon de gérer ci ou ça » que de dire à son compagnon, si on est hétéro, « Ah, je te trouve un peu mascu sur ce... » C'est beaucoup plus compliqué de gérer ces choses-là. Je trouve que le groupe d'amis, pour ces questions-là, par exemple, elle est salvatrice. C'est salvateur de pouvoir... Les gens, ils sont plus capables de se remettre en question dans un groupe d'amis que dans un cercle familial où il faut affirmer des places et tenir des rôles. Là, il n'y a pas de rôle. Il y a des rôles comme dans tout groupe. Le dilettant, le relou, la... Non, mais c'est vrai. Voilà. Mais je trouve que c'est plus mouvant, c'est plus libre. Et, ouais. Donc ouais, le groupe, ça fait partie de ma vie. Et que oui, c'est très la troupe.
Ouais. Ouais. Ouais, finalement, t'as besoin de présence ni revendicative ni dérangeante, comme disait Patricia Highsmith.
Ouais, exactement. Bah, c'est aussi l'avantage de la troupe, et c'est qu'ils viennent, mais ils s'en vont. Ou que j'y vais, mais que je peux repartir. Ça, c'est... Donc c'est, ouais, c'est pas dérangeant, en fait, en soi. On a le choix de partir d'un groupe. Des groupes dont je parle, bien sûr. Pas de, on n'est pas des sectes, donc on peut en sortir. On peut rentrer, et le soir, on rentre chez nous. Et puis, bah oui, après, il y a un goût de l'enfance, de la colonie de vacances. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui ça manque toute leur vie, cette rue-là. Ouais. Hein, qui se souviennent de ces fraternités, soit avec leurs frères et sœurs, de ces moments de jeu, de cousins, je sais pas, les gens qui font, il y en a qui font des cousinades, ce genre de choses. Ouais. C'est, nous, on le garde dans nos vies. Ouais. Et ça, c'est une chance. Franchement, c'est énorme. Donc oui, l'éloge de l'amitié, comme dirait Geoffroy. Je sais pas si c'est bien ce livre, tu l'as lu, toi ?
Non, j'ai pas
lu.
Ah oui, de...
Comment la il s'appelle ?
Ouais. Non, j'ai pas lu.
Je l'ai pas lu non plus. Donc je sais pas si c'est bien dit, mais le titre est intéressant. En tout cas, lui, eux, je pense quand même avec Édouard Louis et comment il s'appelle l'autre ?
Didier Raymond.
Voilà. Ils sont très amis tous les trois. On sent un peu dans ce qu'ils écrivent qu'en fait, ils se rejoignent souvent pour dîner ensemble, pour... Et que ça fait partie, ça a une part prépondérante dans leur vie, et c'est pas à côté du couple ou à côté du travail.
Ouais, et l'amitié, comme tu disais, un peu comme question politique aussi, en effet, quel groupe tu te fais, quelle solidarité tu développes, etc. C'est des questions en fait hyper politiques, et qui sont pas toujours considérées comme telles.
C'est profondément politique, oui, je crois. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça part de l'amour pour moi et que ça part pas de l'idéologie. Voilà. Ouais, même si parfois certains groupes font le taf sans amour, mais ils le font et c'est hyper important. C'est-à-dire que il y a des groupes, des gens qui te soutiennent. Moi, ça m'est arrivé d'avoir du soutien, par exemple féministe, qui n'est pas fait avec amour, parce que c'est pas des gens qui m'aiment et que j'aime, mais qui est fait parce qu'il doit être fait et heureusement qu'il est là.
Ouais. Et oui, si tu ne dois pas forcément bien t'entendre avec toutes les personnes avec qui tu es d'accord politiquement,
non,
etc. Quoi.
Ouais, heureusement, qu'il y a heureusement. Et heureusement qu'il y a des meufs qui vont dire, par exemple, tu vis cette situation, je vais être là, très concrètement en fait, c'est hyper agréable, mais dans moi, ma façon de créer des groupes, que ce soit pour le travail finalement, ça part de l'amitié et de l'amour. Ça part pas de l'idéologie. Et ensuite, on essaie d'accorder nos violons tout le temps, toujours, et comme je disais, de se comprendre. Mais je suis moins dans le genre à m'affilier à des gens que sur de l'idéologie, parce que pour moi, en tout cas, quand je l'ai fait, ça n'a pas tenu. Parce qu'il manquait le rire aussi, l'humour, qui est quand même très important, je crois, pour lier les...
Et qui est aussi une question politique, je suppose. Enfin, ça s'arrête pas justement à la pure idéologie. Et...
Ouais, mais
enfin, justement...
On peut plus rien dire aujourd'hui. Ouais. Non, non, c'est compliqué la question de l'humour. Ouais. La question de l'humour, c'est compliqué, mais c'est vrai que réinventer un humour commun... Normalement, on devrait pouvoir inventer un humour commun en se disant, OK, ça, c'est notre humour. Et c'est aussi celui qui ne détruit pas des gens, donc, si possible. Après, on a tous à faire un travail là-dessus. Hein. Je pense que tout le monde a redéfini à des moments son humour, j'imagine. En se disant, quand même, comme l'humour tient énormément sur le foutage de gueule des minorités, des femmes, des personnes racisées, des handicapés, des gens gros, enfin, donc c'est quand même globalement pas ouf. Et en même temps, comment continuer à être drôle? Il faut. Enfin, si ça devient genre en mode, ah bah non, du coup on rigole plus de rien, c'est trop chiant, faut inventer un nouvel humour. Ouais. Un peu avoir cette. Et ça marche en vrai.
Et voilà, et c'est une question en fait éminemment politique, ça s'arrête pas à l'idéologie et à des discours. Enfin voilà, l'intime est politique, finalement.
L'intime est politique et il faut continuer à en rire. Enfin, je pense que ce qui soude aussi, en tout cas quand je vois par exemple le festival qu'on a monté, il y a plein de gens par exemple de milieux que j'ai rencontrés dans des milieux politiques qui viennent aussi finalement qui nous rejoindre, alors que notre festival il tient pas sur un avis politique, on se ment pas, on fait pas de la politique, tu vois. Mais on essaie de le faire de manière politique, c'est différent. Et bah, finalement, ces personnes-là, on a envie on continue à faire des trucs ensemble, parce que c'est là qu'on trouve un sens concret à toutes les idées qu'on a eues avant, et avec lequel, en fait, on n'a pas forcément réussi à composer avec les autres parce qu'il manquait d'amour et de rire. Là, on peut utiliser les trucs qu'on a appris dans différentes luttes et les mettre au service de quelque chose qui est de la joie, en fait, et qui est concret aussi.
Bon, c'est déjà l'heure de la carte blanche.
La carte blanche, c'est quoi en général ?
C'est comme tu veux. Enfin, si tu veux parler d'un texte dont on n'a pas parlé ou de quelque chose dont on n'a pas parlé, voilà, mais ou dire un petit mot de conclusion.
Un petit mot de conclusion. Je dirais que, en fait, je sais pas, j'avais noté d'autres textes, mais je dirais que j'ai vu le film tard cette année.
Ok.
Et aussi Anatomie d'une chute, et je conseille aux gens d'aller les voir. J'ai beaucoup aimé ces deux films aussi par ces deux personnages féminins qui sont ouf.
Ouais, des films avec des femmes fortes.
Ouais, des films avec des actrices incroyables et des personnages trop stylés.
Ouais.
Je sais que Tar, ça a été un peu accusé d'avoir fait un personnage d'une femme lesbienne, un monstre, mais moi je trouve ça génial personnellement. Je trouve que ce personnage est ouf et on n'a pas du tout de jugement sur elle, justement un peu comme dans Anatomie d'une chute, on ne sait pas quoi penser de ce personnage et on n'a pas besoin de penser quelque chose.
Ouais.
Souvent, comme si on avait un personnage féminin, on était obligé de se demander si on adhère à lui ou pas. Alors que je trouve que les personnages masculins, on a moins cette volonté, on accepte le trouble. Alors que chez les femmes, c'est la maman ou la putain. Et là, le personnage de Tar et de, je ne sais pas comment il s'appelle.
Sandra.
Et ben, ces deux personnages, on ne sait pas quoi en penser, et ça fait du bien un peu, je trouve, de voir des films avec des femmes qui sont déjà des actrices. Enfin, vraiment, moi, je suis fascinée par ces deux actrices, et je trouve que c'est vraiment important aussi de dire aux actrices que ben, c'est pas la fin d'une carrière à 40 ans. En fait, une femme de 50 ans avec tout ce qu'elle a vécu et toute la classe et ce qu'elle a à l'intérieur est tellement intéressant. Je pense qu'on dit souvent justement qu'un acteur, il arrive à maturité un peu à cet âge-là, mais une femme aussi. Et c'est dommage que ce n'est pas ce qu'on dise aux actrices, quoi, et que ce qu'on leur montre, au contraire, c'est qu'elles doivent rester jolies, jeunes et baisables. Quoi. Et si ce n'est plus le cas, elles ont moins de rôles. C'est vrai, ça, et c'est vraiment horrible. Parce que pour le coup, j'ai plein de copines actrices qui vivent en fait ça et qui avancent dans la vie en se disant bon, on verra. C'est encore plus incertain déjà que c'est un métier précaire. C'est encore plus compliqué. Donc ces actrices montent ça et ces personnages. Merci d'avoir écrit des personnages comme ça. Bon, pour le coup, c'est un réalisateur, je crois, qui a écrit tard. Donc c'est aussi pour ça, j'imagine, que c'était plus controversé d'écrire ce personnage-là. Mais je trouve que quand on ne sait pas forcément qui l'a réalisé, un homme ou une femme, je trouve que c'est un putain de personnage, cette chef d'orchestre. Ça m'a beaucoup marqué. Et je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de personnages comme ça, rappeux, troubles, qui sont aussi violents que... c'est aussi deux femmes qui ont des enfants. Et on voit leur rapport à l'enfant dans les deux films. C'est trop bien. Je trouve que c'est trop bien de voir comment les rapports de domination sont aussi une problématique chez les femmes, que le fait d'arriver à des postes de pouvoir. On le voit, hein, c'est dans les deux films, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est... dans les deux couples, en fait, c'est les celles qui sont dominantes, qui réussissent, qui publient, qui font chef d'orchestre partout. Que c'est une réalité, en fait, que le patriarcat est partout et qu'en fait, il finit par infuser parce qu'on est obligé. C'est ce qu'on demande aux femmes de faire quand elles veulent accéder à des postes de pouvoir. Donc, je trouve que le montrer, c'est une réalité, et montrer que des femmes peuvent être violentes, c'est génial. Parce que c'est le cas, en fait. Et la violence des femmes, et ça me gonfle vraiment comment c'est vu. C'est-à-dire que je vois, moi, dans ma vie et autour de moi, que la colère chez une femme, c'est hyper dur à gérer. C'est-à-dire que t'es soit... En plus, quand t'es racisée, il y a un côté la folasse, la tout feu, tout flamme du Sud, tu vois, qui, en fait, est un peu un truc animal, de fauve, tu vois. On va dire, c'est la colère, voilà. Bon, les femmes arabes le vivent, en fait, énormément, ça. Mais je pense que les femmes noires aussi. Parce qu'aussi, c'est des cultures qui sont parfois matriarcales, en fait, donc... les gens ne comprennent pas tout ce que ça implique. Et quand on se met en colère, on nous dit quand même très facilement de nous calmer, de nous apaiser, que notre violence... Quand on voit des femmes qui tuent, on leur donne des circonstances atténuantes qui, en effet, en fait, existent sociologiquement, mais qui, sur le principe même de la violence, n'ont pas de sens. Et par exemple, Virginie Despentes, pour le coup, c'est vrai... pour la citer comme voilà, mais on est quand même, enfin, c'est quand même une autrice hyper intéressante pour ce qu'elle est aussi, je trouve, et c'est une femme qui a de la violence dans sa façon de s'exprimer et qui le fait tellement, en fait, moi, ça me rassure énormément parce que elle, on accepte sa violence et elle nous fait du bien. C'est-à-dire que quand elle fait des interviews, elle dit les trucs franchement. Elle s'est pas tant embourgeoisée que ça, je trouve, dans sa, même si en réalité elle le dit, elle s'est embourgeoisée, mais dans sa façon de s'exprimer et d'être vénère, elle est tellement solide que elle est légitime, sa colère. Voilà, il y a c'est Golan Royal, il y a des colères saines. C'est vraiment, avec mes copines, on est souvent retrouvés en fait, à devoir répondre ça. Il y a des colères saines. C'est quand même fou. Bah ouais. Donc, ces personnages-là, ces écritures de femmes violentes aussi, c'est hyper, pour moi, c'est très. Ça fait du bien, en fait. Ça me permet, moi, de peut-être vivre ma violence d'une autre manière. Voilà. Mais je trouve qu'on laisse peu de place à ça. Et qu'en fait, c'est hyper dur à vivre. On peut pas, on a du mal à extérioriser notre violence. C'est un problème. Parce qu'en fait, elle ressort parfois sur les enfants. Enfin, j'imagine, ça ressort sur les enfants. Ça ressort de manière étrange dans le couple hétéro parce que l'autre personne comprend pas pourquoi il y a un déferlement de violence qui se fait comme ça. Mais c'est parce qu'aussi, c'est le représentant du patriarcat. Donc, c'est lui qui va prendre, en fait... une violence qui est légitime. Il faut pas oublier qu'elle est totalement légitime et elle est pas du tout magnifiée. Alors que dans ces films, elle est magnifiée. La dispute dans Anatomie d'une chute, elle est géniale. Parce que certains vont se dire peut-être, cette meuf est détestable. Mais en fait, c'est hyper juste. Je trouve c'est une super scène d'embrouille de couple. On peut pas prendre le parti, on sait pas. En fait, il y a pas de clés qui sont données. C'est vraiment ça qui est cool. On peut pas prendre le parti. C'est pas un livre sur une femme qui se fait complètement où son mec est complètement abusif. Elle est pas totalement abusive non plus. On voit que c'est quand même une bonne mère. Elle a l'air d'être dans la compréhension. Elle est complexe. Ça, c'est cool, quoi, d'avoir des personnages complexes et solides.
Plus de femmes en colère et plus de femmes complexes.
Et puis en plus, de préférence, filmé par des femmes. C'est en train, quand même, je trouve que ça change. Franchement, tu vois, en voyant ces deux films cette année, je me suis dit, ça change quand même. Ça évolue et il y a quand même plus en plus de réalisatrices et c'est trop bien. Enfin, ça change l'histoire de la violence des femmes. Et qui la rend stylée un peu. En fait, c'est trop stylé d'être violente. Je trouve une femme violente, franchement.
Franchement, c'est stylé.
Ouais. Ouais, t'as pas forcément envie de vivre avec au quotidien, mais moi je sais que ma tante, elle est connue pour arriver dans des endroits et défoncer des bureaux en prenant tout d'un revers de la main. J'aimerais pas vivre avec elle, mais franchement, j'admire. Enfin, il y a un truc, c'est légitime, c'est normal, et c'est pas regarder en mode mais c'est bizarre, il y a de la folie là-dedans, c'est mystérieux. Non, c'est pas mystérieux. Enfin, en fait, c'est la même que celle des hommes. Hein. Enfin, je pense qu'on a une envie de violence commune. Non, mais c'est vrai, un besoin en fait face à ce qu'on subit.
Ouais.
C'est que c'est pas si différent. Elle vient.
Ce que tu veux dire, c'est que c'est une réponse à la violence qui a déjà été infligée. C'est une réponse à la violence de la société. C'est ce que Françoise Dobon disait, la contre-violence, quoi, en fait. C'est pas juste.
Ça, c'est évident, mais c'est aussi que la violence fait du bien.
Ouais.
En fait, exprimer quelque chose violemment, c'est nécessaire à des moments dans la vie. On peut pas argumenter tout. Enfin, je veux dire, les hommes le vivent. Ils vivent la violence. Ah, fais chier, merde, les stades de foot, ils ont des endroits où ils peuvent... il y a des catharsis, quoi, pour qu'ils puissent s'exprimer, gueuler, dire merde, fais chier. Dans la voiture, par exemple, l'énervement... après, il y a aussi des femmes vénères au volant, mais l'énervement masculin, ça fait du bien, en fait. C'est normal d'avoir... Alors, le monde ne doit pas être que violence, mais les femmes ont le droit d'exprimer...
Il faut extérioriser un moment, quoi.
Mais même il y a une chanson... de Clara Isée, là, qui est sortie, qui est super jolie, qui s'appelle Douce, où elle dit... Bon, moi, ça me parle pas forcément, parce que je pense pas que les gens me définissent comme quelqu'un de doux. Mais je trouve que cette chanson est très belle, parce qu'elle dit, en fait, la violence et l'arrogance, c'est aussi bien que le silence. Enfin, je veux dire, ça, c'est nécessaire, en fait. Enfin, et même nous, on expliquait avec des gens, avec une amie, avec des garçons avec qui on travaillait, que... mais on n'est pas des bisounours, en fait. On est aussi vénère. Il y a des moments, on n'est pas contente et c'est pas grave.
Ouais.
Moi, je peux m'énerver avec les gens et ensuite m'en excuser. Voilà, mais juste, j'ai le droit de m'énerver. Enfin, juste, j'ai le droit à l'énervement.
Voilà.
Et à le magnifier un peu. Donc, ces films sont beaux parce qu'ils permettent de magnifier la colère des femmes. Voilà. Même le film, je sais pas si t'as vu Monster.
Ah non, j'ai pas vu, mais sur la serial killer,
ouais. Ah, c'est hyper jouissif. C'est une des seules serial killer femmes qui a été recensée, en tout cas aux États-Unis. Qui clairement, c'est une revanche par rapport à des agressions, des viols subis. Enfin, voilà, une enfance affreuse. Mais en fait, comme des hommes qui finissent par tuer. Elle a été pas mal, on a beaucoup par rapport à d'autres hommes, à des hommes qui font ça, appuyé sur ce contexte sociologique, mais c'est tellement jouissif, et c'est vrai, surtout c'est une histoire vraie, c'est pas Jackie Brown, quoi, c'est une histoire vraie, c'est une femme qui a décidé qu'elle allait tous te les faire. c'est très agréable à regarder. Mmh. Et en fait, ça permet de respirer un peu. Bon, évidemment, j'ai pas du tout envie de faire ça, mais heureusement qu'il y en a qui le font au cinéma. C'est pour ça que c'est bien, le cinéma. Ah oui, ça nous fait du bien d'avoir. Donc oui.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, Maya.
Bah, merci, Arthur. C'était trop bien. Et bonne journée à tous.
Gilda Scarmouze, la trentaine fatiguée, est un vrai social-démocrate. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, sa mère meurt dans ses bras. Il aurait pu pleurer seul chez lui, mais il a cuisiné une choucroute de la mer pour 5 personnes. Ses amis, de vrais sociaux-démocrates, sont des gens charmants. À 20h, ils apprennent que le PS obtient moins de 2% des suffrages. L'appartement est confortable, la choucroute a l'air réussie. Toute la misère du monde de Maya Ernest et Vincent Callas est l'histoire d'un enterrement impossible. C'est la petite bourgeoisie de gauche des grandes métropoles qui assiste à la mort de ceux en quoi elle croyait et qui refuse de se salir les mains pour mettre de la terre sur le cadavre. C'est l'histoire de ceux qui ne croient plus ni en Dieu ni au grand soir et qui s'acharnent à rester raisonnables et polis dans un monde qui ne l'est pas. C'est l'histoire d'une idée, des trahisons qui l'ont abîmée, de sa longue agonie et de sa mort inévitable. C'est l'histoire d'un plat de poisson difficile à digérer. L'histoire des derniers des socialistes, de leurs larmes sincères et de leur déni coupable. C'est aussi une question. On fait quoi du cadavre de sa mère? Merci d'avoir écouté cet épisode, mixé par Hugo Cardona, illustré par Pauline Le Serre et réalisé par Arthur Segar. N'hésitez pas à le commenter, à lui mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées et à le partager à vos camarades, à votre mère ou à votre famille choisie. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode où il sera question toujours de théâtre mais aussi d'île et de renarde.